Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS, et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le libre journal de Serge de Bekech avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 2 février 2005 de 18 à 21h, en différé jeudi 3, dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Amis de la Résistance, bonsoir.
Bonsoir, le cœur des résistants.
On se croirait dans les émissions de télé avec les rires enregistrés.
Ça, c'est les choristes, ça, c'est le syndrome.
Donc, je commence par une petite annonce. Moi, je comprends pas. Il y a combien de millions de chômeurs? 20 millions en France?
Il y en a
non,
beaucoup.
Non, peut-être pas 20 millions.
Ça fait beaucoup.
6 millions?
Non, c'est... Il y a 20 millions de gens qui travaillent pas.
C'est 10% de la population active, donc 10% fait... de 23 millions de personnes. Bon.
Et la population officielle.
Donc, la population, merci. Donc
de,
vous savez déjà.
2,3 millions, théoriquement, enfin à peu près.
Vous avez déjà reconnu la voix de M. Tasso. Alors donc, bah, il y a beaucoup de chômeurs. Et nous, on cherche un webmaster flash.
N'importe quoi.
Et un infographiste. Et on n'a toujours pas trouvé. Donc, jeunes. Je m'adresse, comme toujours, comme mon excellent ami de Naguère. Jeunes, mobilise-toi. Devient webmaster flash, voire infographiste. Les vieux, c'est même pas la peine d'écouter parce que vous en savez pas plus que moi. Donc ne faites pas semblant. Vous savez ce que c'est un webmaster flash, Dominique Tasso?
Non, webmaster à rigueur, mais flash.
Flash, non, ça va. Mais continuez comme ça. Et donc voilà. Alors c'est pour participer à une campagne d'information sur les dessous de la, constitution européenne.
Et tout pour bien propre.
Non, c'est pas très propre tout ça. Voilà. Donc je rappellerai. Alors l'adresse à laquelle il faut, l'adresse courriel à laquelle il faut s'adresser, c'est Euro 2005. Alors autrement dit Euro 2005.
C'est salaire, c'est en euros.
Oui, c'est ça. Oui. Ils rêvent les. C'est bénévole, bien sûr. Radio Courtoisie. C'est pas Radio Courtoisie qui cherche ça, mais c'est la même chose. Donc, euro 20005, non, 2005, pardon, arrobase, ah non, on avait arrobase.
Oui, arrobase, c'est espagnol.
Arrobase, hotmail, H-O-T-M-A-I-L. Je crois qu'il y a déjà 2000 auditeurs qui ont...
De banlieue, qui arrivent en courant.
Hotmail, ça veut dire boîte chaude, hein, H-O-T-M-A-I-L.fr. Je le redirai parce que j'aime bien dire ça. C'était notre minute de s'habillant. Les invités de ce soir, ma Victoria est à ma gauche, le Marquis est à ma droite. Je ne sais pas comment il fait pour trouver une place. Oui. Nous recevrons Madame la Princesse Murat, présidente de l'association Enfants de Géorgie, qui nous parlera de la Géorgie. Alors c'est amusant et intéressant parce que les Murat sont en Géorgie depuis 150 ans
oui,
au moins.
Et oui, ils sont retournés ils chez fait, eux.
Voilà, en quelque sorte.
Elle est altesse, hein, je vous dis ouais. Ça au passage. C'est il pas madame, c'est altesse.
Oui. Excusez-moi, son altesse.
Non, altesse, non, comme ça altesse. Je dis ça en passant.
Bon, on dira ça, on dira altesse. Parce que, oui, d'accord. Je fais walk my way, comme on dit dans les...
Avec
Winnie Wurmeling, secrétaire générale de l'UNEC. On parlera de la Géorgie, vous verrez, ça peut être intéressant. Nous recevons également Dominique Tasso et Monsieur Prival. Alors d'habitude, je ne me souviens pas de votre nom, mais là, c'est Guy. Non, c'est ça, il n'y a rien à faire, je ne peux pas me mettre ce Guy Prival dans la tête.
Alors, j'appelle idée. René,
Rémi, Philippe, on ne sait pas pourquoi. Guy Prival, secrétaire du CEP. Alors j'ai dit secrétaire général, mais Dominique Tasso m'a dit non, on n'a pas les moyens de se payer un général, on se contente
même en fait.
D'un chef, quoi, finalement. On parlera du CEP et du colloque sur l'enseignement, qui est un programme très très intéressant que vous préparez pour le mois de
19 février. Bientôt.
En deuxième partie, je recevrai mon ami, mon frère Alain Sanders, que j'aime autant qu'il m'aime, et Dieu sait qu'on s'aime. On est d'accord à peu près sur tout, sauf sur un truc, c'est... Bush. Mais on est quand même d'accord, il a écrit un bouquin excellent, très très bien foutu, sur l'Amérique, qui s'appelle L'Amérique que j'aime, et qui est une espèce de dictionnaire, de l'Amérique qu'on aime. C'est-à-dire l'Amérique qu'on rêve, qui n'existe naturellement pas, et pas plus que d'ailleurs que la France qu'ils aiment et qu'ils nous montrent au cinéma n'existe. J'ai vu l'autre jour un film où le personnage principal du film sortait du métro Porte des Lilas pour aller se balader sur les bords de la Seine. Donc il sortait Porte des Lilas, et puis il avançait et il se retrouvait à côté de la Notre-Dame.
Il avait pris un raccourci.
Cela dit, c'était ravissant. Ensuite, nous recevrons Ghislain Dubois, qui est animateur de Chrétienté et Solidarité en Belgique, et qui est écrivain et voyageur, et qui a écrit lui aussi un très beau livre qui s'appelle Irlande, si je t'oublie jamais. Irlande, hein.
Irlande, oui. Un Belge qui a écrit sur l'Irlande.
Oui, bah pourquoi pas.
Pourquoi pas. Vous êtes sûr qu'il s'appelle Ghislain?
Oui,
Ghislain.
Vous voulez l'appeler Ghislain?
Ah, je ne sais pas.
Vous faites comme vous voulez, moi
je
ça me dérange
pas.
Et ensuite, nous recevons Christophe Mailleux, l'abbé de Tannouarn, pour parler une dernière fois avant le jour dit.
Dimanche.
Du colloque sur la laïcité. Là, on parlera un peu du fond. D'abord, quelques informations. Alors, je voudrais prévenir les auditeurs. En ce moment, il y a une campagne qui se développe pour faire appel à des fournisseurs de... Comment on appelle ça? De téléphone, là, vous savez, des fournisseurs d'accès téléphonique. Alors, ils vous disent, nous, on est les meilleurs, le 2, le 7, le 9, le machin, le truc. Alors, je vous dis, vous prenez ce que vous voulez, mais il y en a un. Si vous voulez vous amuser vraiment, c'est-à-dire être tranquille, ne plus avoir de téléphone, ne plus pouvoir téléphoner, recevoir des factures hallucinantes qui vous font dresser les cheveux sur la tête, vous prenez le 9. Là, je vous recommande de prendre le 9. Vous ne vous ennuierez pas une seule seconde. Vous décrochez, il n'y a pas de tonalité. Vous raccrochez, ça sonne, il n'y a rien. On vous envoie la facture. Vous recevez la facture de France Télécom, vous recevez la même facture du 9. Et il faut payer les deux. Enfin, c'est un véritable bonheur. On ne s'ennuie pas du tout. Et... quand vous voyez les vendeurs du 9, ils vous expliquent qu'il n'y a pas de... il n'y a plus d'abonnement. Faudra-t-il payer un abonnement? Non, monsieur, il n'y a pas d'abonnement. C'est formidable. L'abonnement, ça vaut 15 euros à peu près. Donc, plus d'abonnement, alléluia, économie de 15 euros par mois. Et là-dessus, vous recevez le facture d'abonnement de France Télécom. Alors, vous dites à France Télécom, mais je prends le 9, je ne paye pas d'abonnement. Ah bon, d'accord. Mais oui, mais évidemment, 9 ne vous fournit pas ne vous fait pas payer l'abonnement parce que c'est pas eux qui vous fournissent la ligne. La ligne, c'est nous qui la fournissons. Donc, il faut nous payer à nous. Le 9 Télécom, si vous payez, vous voulez payer vos communications, vous avez le droit de le faire. Donc, voilà. Si vous voulez vous amuser, vous remarquez que je fais pas un appel au boycott, hein. Parce qu'il faut faire, il faut être prudent, c'est interdit l'appel. Donc, si vous voulez vraiment bien rigoler avec votre téléphone, ça coûte un peu cher quand même, parce que ça double pratiquement le montant de la facture. Mais n'hésitez pas à faire appel au 9. Et une fois que vous êtes prisonnier chez eux, vous êtes bien attrapé parce que ils vous demandent de rendre, quand vous voulez plus travailler avec eux, ils vous demandent de rendre ce qu'ils appellent le modem. Alors, je sais pas encore où il va falloir que je le rende, mais j'ai l'impression qu'il faut que je le rapporte directement chez le fabricant, qui est chinois, naturellement. Donc, je pense que je vais être obligé d'aller à Taïwan pour rendre le neuf. Voilà, parce que, non, mais c'est pas que je suis mécontent, c'est plutôt que j'ai pas le temps de m'amuser avec le téléphone, c'est un outil de travail, donc si j'ai le temps de m'amuser, je dois regarder. Je vais vous lire une chose, vous allez, vos cheveux vont se dresser sur la tête, mais il faut quand même que je vous le lise parce que ça, dans l'ambiance actuelle, ça me paraît assez imprudent d'avoir dit ça. C'est des messieurs qui ont dit « Les vrais vainqueurs de la guerre de 39-45 sont les Juifs, car ils ont réussi à s'installer en Europe et à y rester. » Alors, je trouve ça curieux, parce que d'abord, ils étaient déjà là avant. Puis je trouve cette réflexion curieuse, et je ne l'aurais pas citée, si elle n'était estampillée par le Bedin, puisque elle a été prononcée sur Judaïque FM le vendredi 28 dans l'émission Plein Feu par messieurs Vladimir Spiro et Gérard Hakoun, dont j'ai quelques raisons de penser qu'ils ne sont pas vraiment antisémites. Et donc je suis un peu étonné quand même, parce que vous voyez, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont
le
droit de
voir le contexte.
Oui, il faudrait voir le contexte. Merci, David, c'est gentil de le rappeler. Mais effectivement. Alors, ce qui est amusant, c'est que lors de cette fête du livre, à la suite de cette émission, il y a eu la fête du livre de Radio de Judaïque FM, qui s'est déroulée dans un hôtel élégant de l'avenue Victor Hugo, en présence de au moins deux ministres ou assimilés, Madame Gedge, qui est ministresse des victimes, et Monsieur Sarkozy.
Mais je pense que c'est peut-être pas complètement faux si on prend, c'est le mot installé qui est employé.
Oui.
Installé, c'est un petit peu comme establishment.
Oui.
En anglais. Donc, peut-être que l'idée qui est derrière, mais ça, c'est une hypothèse. Oui, c'est que justement, si on compare la société d'avant 40 et la société d'après 40, il est certain que le statut de la collectivité, de la communauté, est plus d'establishment après qu'avant.
De toute façon, s'ils le disent, c'est que c'est vrai. Bon, on va pas de discussion là-dessus. Mais quand même, je trouve ça intéressant que, alors, si moi j'avais osé dire ça, j'aurais probablement eu des reproches. Et donc, cette foire du livre, cette fête du livre, il y avait une soixantaine d'invités. Mais ce qui était amusant, c'était qu'à l'entrée, naturellement, il y avait des questions de sécurité qui posaient, grave, parce que... Et donc, les gens étaient fouillés à corps, même fouillés les poches extérieures, poches intérieures, les sacs, les machins, les chapeaux, enfin tout. Et puis, on vous posait deux questions. Êtes-vous juif ? Oui ou non ? Non. Et deuxième question, quelle synagogue fréquentez-vous ? Et je me disais, en entendant ça, imaginez qu'à la fête du livre de Radio Courtoisy, on dise aux gens, vous êtes catholique et vous allez dans quelle église ? Et vous direz, mais que ça peut vous foutre. Non ? Voilà. Cela dit, l'entrée était gratuite et la bouffe aussi. Donc c'est bien.
C'est une erreur.
Ça, c'est peut-être une leçon. Hein.
Une erreur.
Bah, je sais pas. Enfin, en tout cas, moi, j'aimerais bien que ça soit comme ça, Radio Courtoisy. La fête du livre, je veux dire. Pas le... Voilà. Je veux dire ça. Les préfectures de toute la France ont reçu à la mi-janvier du ministère de l'Intérieur, ça c'est à propos de la Turquie, un télégramme signalant que, par des détournements de procédure, des faux documents, l'utilisation simultanée de tous les moyens d'entrée en France, certains ont organisé l'introduction en nombre important de ressortissants turcs dans notre pays. Peut-être qu'on a oublié de leur dire qu'ils ne sont pas encore européens.
Oui, puis enfin, il serait temps de s'en apercevoir.
Oui, mais là, ce qui précise ce télégramme, c'est que l'organisation sur place de cette immigration massive serait faite par des entrepreneurs turcs. Alors, c'est intéressant parce que, en vertu de la délocalisation, nous, on leur envoie du travail. Eux, ils nous envoient des travailleurs dont on n'a plus besoin, puisqu'on n'a plus de travail, on l'a envoyé chez eux. Et je me demande comment ça va finir. Il y a un moment où il va y avoir un problème. Quand tous les travailleurs turcs sont en France et quand tout le travail de France est en Turquie, il va falloir exporter des travailleurs français en Turquie.
Ça s'appelle un chassé-croisé.
Oui, moi je suis assez d'accord pour chasser, pour croiser moins, vous voyez.
Moi je serais plutôt un croisé contre le... Oui, enfin.
Et alors j'ai eu une nouvelle qui m'a rempli de bonheur, je dois dire. Ça, c'est le genre de nouvelle qui me... Ça me rend heureux pour toute la journée et même les journées suivantes.
Vite.
Hein, je vais vous le dire. Il y a une société qui s'appelle Lutin Malin. C'est joli, Lutin Malin. Lutin Malin, il fabrique du papier hygiénique. Bon, il n'y a pas de saut métier, il n'y a pas de même saut d'aisance. Et cette marque Lutin Malin, elle vient de mettre sur le papier, sur le marché, un papier hygiénique en rouleau qui porte imprimé, vous n'allez pas le croire, mais je vous jure que c'est la vérité, je l'ai vu. À l'encre non toxique quand même, pour des raisons sur lesquelles je ne m'étendrai pas. Le texte de la Déclaration universelle des droits de l'homme.
Non. Mais on va en commander trois camions tout de suite.
C'est vendu au Monoprix, je vous signale. Enfin, c'était vendu au Monoprix. Je ne sais pas s'ils ont continué, parce qu'à mon avis, il y a un moment où quelqu'un a dû le lire, quand même. Donc, alors le gag ultime de ça, c'est que déjà... Bon, ça, c'est très bien, je vais en acheter si j'en trouve. Mais le gag derrière, c'est que ils disent que pour chaque paquet de 12 rouleaux vendus, ils donnent 15 centimes d'euros à l'association Reporters sans frontières, qui sont versés... Non, pardon, c'est pas ça. C'est parrainé par l'association Reporters sans frontières, dont le logo figure également sur le papier. Et par paquet de 12, ils donnent 15 centimes d'euros à une association qui éduque des chiens guides pour aveugles. Alors, c'est pas les chiens qui vont lire le papier, c'est pas non plus les utilisateurs des chiens. Donc, je pense que les bénéficiaires de cette opération ne savent pas ce qu'ils leur rapportent. Mais quand même, imprimer la déclaration des droits de l'homme sur le...
Je trouve que c'est une revanche, parce que depuis le temps qu'on nous fait caguer avec la déclaration des droits de l'homme, voilà. Enfin quelque chose.
Voilà, moi je suis très content de ça. Je vais en acheter, si j'en trouve, j'en achèterai autant que je peux.
Emporter. Ça doit aider les aveugles, l'argent n'a pas d'odeur, donc...
Voilà, exactement.
Très bien.
Alors, les habitants de Crépy-en-Valois ont appris que... Vous connaissez Crépy-en-Valois?
Crépy,
non, c'est encore Crépy pour l'instant. Faut pas confondre. C'est dans 77, c'est pas dans 93. Hein.
Oui, d'accord.
Enfin, je crois. On a appris que...
Non, c'est dans l'Aisne. C'est dans l'Aisne.
Oui.
Ah, c'est une petite ville, c'est sympathique.
Alors, donc, les habitants de Crépy-en-Valois ont appris que leur mairie avait décidé de donner 15 000 euros à la Croix-Rouge française pour les victimes du
dessert italien.
Voilà. Ça, c'est malin. Ça. Il a découvert que... Il dit que c'est une espèce de catastrophe qui porte un nom de dessert italien. Comme il est incapable de retenir les mots de tsunami.
Voilà.
Donc, 15 000 euros, c'est-à-dire, a dit le maire très fièrement, c'est comme si chaque Crépinois donnait 1 euro. Mais, a-t-il dit, il faut que les Crépinois... sans crépiner la chose, parce qu'autrement ce serait pas drôle. Donc, il a décidé de remplacer lors des cérémonies municipales le champagne par du mousseux. Il y en a qui vont être très contents, ce sont les marchands de champagne, bien entendu. Les marchands de mousseux, ils seront plus contents encore, d'ailleurs. Voilà. Et alors, l'ami qui me donne cette information, qui est l'ami Jacques, me dit, il serait quand même intéressant de savoir combien d'administrés de ce brave maire sont eux-mêmes dans le besoin. Attention, on a changé de sujet, là.
Ils sont dans le besoin.
Et attendent qu'on les aide. Et il ajoute, mais de toute façon, ils continueront à voter pour ce maire généreux, puisque ces gens qui préfèrent donner la priorité à toutes les populations à l'autre bout du globe, au détriment des Français dans la misère, sont élus, réélus par les mêmes pauvres gens, et donc ils auraient vraiment tort de ne pas poursuivre leur chimère mondialiste. C'est vrai, c'est pas bête.
Il y a d'ailleurs une information intéressante que j'ai vue sur mail, qui comporte la date d'intervention des différents États. Qui ont donné de l'argent pour le tsunami. Alors évidemment, très vite, on a eu l'Allemagne, les États-Unis, la France, etc. Et puis, avec des sommes très variables selon les pays, d'ailleurs, l'Allemagne étant très généreuse. Et puis, au bout de 3 semaines, l'Arabie Saoudite s'est réveillée et a fini par donner 30 millions d'euros, de dollars. Mais et alors, le commentateur faisait remarquer que, justement, c'était les pays chrétiens qui aidaient des populations à majorité musulmane, et qu'au fond, il y a quand même des pays musulmans qui ne sont pas dans le besoin, et que ces pays-là n'ont pas eu du tout le réflexe de solidarité avec d'autres musulmans touchés par un cataclysme, et ils ne se sont décidés à le faire que quand c'était devenu pratiquement impossible pour eux de ne pas accompagner le mouvement général.
Mais d'ailleurs maintenant, aussi bien la Croix-Rouge que les autres, que Médecins Sans Frontières disent que c'est plus la peine d'envoyer du fric parce qu'on ne sait plus quoi en faire. Et j'ai entendu des médecins de là-bas dire, s'il vous plaît, arrêtez de vider vos poubelles de médicaments chez nous. On n'a absolument pas besoin de médicaments. On ne sait pas quoi en faire. On ne sait pas ce que c'est d'ailleurs, parce que ce sont des médicaments européens dont on n'a pas l'usage.
Les crèmes amaigrissantes, c'est
bien. Oui, alors il paraît que certains ont envoyé des packs de régime. C'est quand même normal.
Voilà.
Alors il y a un message là qui nous dit, il n'y a pas que sur Judaïc FM qu'il y a des perles. Oui, ça se saurait. Oui. Sur Radio Courtoisie, la semaine dernière, chez Beketch, le violeur de la contrôleuse SNCF était prétendument de la Bretagne du Sud, très au sud. Or, d'après le Figaro, le violeur se prénomme Jean-Pierre. Alors, bon, je voudrais vous dire que c'est le Figaro, c'est quand même pas parole d'évangile, ça se saurait. D'autre part, la Bretagne du Sud, je suppose qu'il y a des Jean-Pierre en Bretagne du Sud, même très au sud.
Enfin.
Donc je vois pas ce qu'on nous reproche. Hypocrite.
Et le Figaro, lui aussi, lâche des perles de temps en temps. Hein,
alors, je parlais donc de Crépy-en-Valois, je vais vous parler de la mairie de Montbagny, qui a failli être incendiée, des cocktails Molotov ayant été lancés dans la salle du conseil et sur le toit. c'est un petit peu d'animation municipale. Sans l'intervention rapide du personnel d'Astringe, le bâtiment flambait à coup sûr. Cette opération commando intervient, alors là, je précise à notre auditeur de juste avant, là, intervient tout à fait par hasard, après la fermeture d'une mosquée implantée dans le sous-sol d'une cité.
Ça n'a évidemment aucun rapport.
D'autant que tous les témoins disent que c'était des ninjas qui ont attaqué. Ils ont vu les gars cagoulés, habillés tout en noir, qui sautaient sur place en lançant leur cocktail Molotov. Donc les ninjas, pour autant que je sache, ils sont pas hébergés dans les cités du... Et ils vont pas à la mosquée, les ninjas. C'est des Chinois, les ninjas.
Oui, c'est ça.
Ou des tortues.
Des tortues.
Voilà.
Des tordus.
Roland... Jedrzejczyk.
C'est un footballeur, ça?
Non, c'est un élu socialiste.
Ah bon?
Qui est poursuivi pour fraude fiscale. Il était condamné, mais le parquet a trouvé que c'était pas assez, donc le parquet a fait appel. Et là, monsieur Jedrzejczyk, il dit, j'ai manqué d'attention. C'est pas de sa faute, il se trompait. Il savait pas qu'il avait 9000 euros à payer aux impôts. Moi, je vous garantis que si j'avais 9000 euros à payer aux impôts, je l'oublierais pas. Hein. Ça me laisserait un souvenir. Non, lui, il a oublié. Et alors, c'est les milisants lui ont demandé, attendez, est-ce que vous pouvez, si vous n'êtes pas capable de payer vos impôts, comment est-ce que vous pouvez avoir le culot de voter ceux du Conseil Général? C'est une bonne question, non?
Hein? On oublie beaucoup, quand même, dans tout ça. Le préfet qui avait oublié de payer sa pension alimentaire, tout ça, il y a quand même des gens importants.
Ça, il y a un grand papier dans le Libre Journal. Je peux dire un grand papier, parce que j'en suis l'auteur, donc...
Il y a un ministre belge, il n'y a pas très longtemps, qui avait aussi oublié de payer, mais une somme bien plus importante.
Ah, belge.
Nous, non, on ne dit pas de mal des Belges, s'il vous plaît.
Je dis pas de mal des Belges.
Ah bon, voilà. vous savez que Paris est en train de se vider de tous ses locataires moyens riches, comme disaient les... Non, moyens pauvres, les Chinois disent moyens pauvres. Parce que tout l'immobilier est racheté par les fonds de pension américains. Et donc, ils virent tout le monde, ils font des travaux, ils revendent quatre fois plus cher, etc. Alors, les gens sont allés voir la mairie de Paris. Le maire de Paris s'est déclaré impuissant, mais ça, on le savait déjà depuis un moment. Mais en revanche, quand les gens de Ni Pute Ni Soumise, vous savez, l'association Ni Pute Ni Soumise, se sont présentés parce qu'ils avaient été expulsés pour non-paiement de loyer 2 ans, pas payé le loyer, alors on leur dit, écoutez, vous êtes Ni Pute Ni Soumise, mais quand même, vous êtes un petit peu soumis à la loi sur les loyers, donc comme vous... voilà, il vaudrait mieux partir. Alors on les a expulsés, sont allés voir le maire, et le maire, qui ne peut rien faire, a donné ordre à l'Office public d'aménagement et de construction de Paris, l'OPAC, dont il disait justement, avant de devenir maire, que c'était vraiment une structure opaque, il a ordonné qu'elles soient relogées. Alors elles sont relogées 163 rue de Charenton, dans le 12e arrondissement, je le dis pour nos jeunes auditrices qui ne seraient ni
prêtes ni soumises. C'est quand même étonnant dans tout ça, c'est que c'est les fonds de pension américains qui rachètent l'immobilier à Paris. On est gouverné par la plume de ma tante et on se fait baiser par l'oncle Sam.
C'est très avant-culaire tout ça. Ouais. D'ailleurs, on pourrait lui dire, espèce d'avant-culaire. Ouais. Et cette adresse providentielle, je disais le 163 rue de Charenton, c'est celle d'une association soutenue par la mairie, bien entendu, qui s'appelle la Maison des Femmes de Paris, et qui se définit, écoutez bien, comme un lieu ouvert à toutes les femmes et non mixte. Alors si vous vous pointez, Tasso, on vous dit, vous pouvez pas rentrer. Voilà.
C'est quoi une femme non mixte?
Justement. Alors j'allais peut-être demander à Maud d'aller faire un tour.
Oui. Muriel Robin, tout ça peut...
Je ne sais pas. Non, mais... Voilà. C'est,
oui, hein.
Ou peut-être Delano, il peut rentrer, lui, au fond.
Oh, oui.
Il est mixte, lui.
Oui.
Mais ça peut être un foyer pour femmes battues, comme il en existe.
Ah ben, c'est dommage, on va avoir Goffman au téléphone, on va leur proposer un contrat, parce que lui, il bat assez volontiers.
Oui.
Sa femme, enfin, c'est ce qu'il écrit. Je crois que c'est pas vrai, mais... La mairie, qu'est-ce qu'il y a?
Victoria
a peur d'être battue.
Non.
Il y a encore une nouvelle, c'est que vous savez qu'il y a eu un scandale, beaucoup d'agitation autour du fait que la mairie de Paris, très stricte, a dit pas question de servir de la viande halal dans les cantines scolaires. Hein, vous n'avez qu'à manger ce qu'on vous donne, si vous n'êtes pas content, allez vous faire dorer. Mais la mairie de Paris a organisé le 19 janvier un dîner à l'hôtel de ville pour recevoir les visiteurs de la VISO. Les VISO, vous savez ce que c'est? Women International Zionist Organization. C'est l'organisation internationale des femmes sionistes.
On leur a servi
un dîner cachère. Moi, je veux bien, c'est tout à fait normal, très bien.
Deux poids, deux mesures.
Ben voilà. Pourquoi pas donner de la viande halal aux petits, aux petits-enfants. Et pourquoi ils mangent de la viande, d'ailleurs, ces gosses-là?
Oui, les gosses très pauvres, ils n'ont pas mangé de viande.
Absolument. Alors, toujours le maire de Paris, c'est sa fête aujourd'hui. C'est,
non,
hein, non, mais parce qu'il a une idée que j'aime beaucoup. Il prévoit déjà que Paris va se prendre une gamelle dans la candidature aux Jeux Olympiques, que j'espère personnellement.
Et moi donc.
Alors, il a demandé à la Fédération sportive gay et lesbienne, qui est subventionnée par vous, enfin par tous les habitants de Paris,
oui.
Pas que vous, moi aussi, d'étudier le lancement des Jeux Olympiques gays et lesbiens pour Paris en 2010.
Pour compenser.
Voilà. Comme ça, on l'aura pas complètement dans le...
Oh, je connais déjà quelques médailles d'or.
Oui. Voilà. Eh bien, c'était tout ce que je voulais vous dire. Après tout, il n'y a que ça qui est intéressant dans l'actualité. Après, le reste, c'est triste. Donc, j'en parlerai pas. Puis, on dirait du mal.
Oui, parce que ça, c'était gay, c'est vrai.
Ça, c'était vraiment gay. Est-ce que mon camarade... Non, il n'est pas là. Il ne répond pas. Ah ben, j'ai pas dit de l'appeler, effectivement. Oui, je voulais qu'on appela
Goffman.
Oui, non, mais bien sûr,
on se fait une bouffe.
J'avais dit à Franck que je lui ferais signe, mais je vais en profiter pour relancer un appel. Si vous êtes webmaster flash ou infographiste, vous envoyez une lettre, un courriel à euro2005@hotmail.fr et vous dites je voudrais faire webmaster flash. C'est très marrant parce que vous savez pas ce que c'est, mais moi je vous le dis ce que c'est, webmaster flash. C'est des gens qui font des petits dessins animés très très courts.
Super.
Sur ordinateur. Alors c'est pas vraiment du dessin animé, c'est du mouvement et c'est vraiment bien fait, c'est très drôle, ça permet des effets extrêmement drôles, très rapides et qui consomment pas beaucoup de mémoire, donc on peut les regarder sur l'ordinateur. Et ça permet de faire passer des bonnes idées.
Monsieur qui est de l'autre côté de la vitre, vous avez montré ce qui s'est fait pour la campagne électorale aux États-Unis. C'est drôle.
Ah oui, oui, c'est ça, les Américains ont utilisé ça. Monsieur Goffman, bonsoir.
Bonsoir, monsieur de Beckett.
Alors, parlez bien dans le micro.
Parle dans le micro, comme on dit certains soirs.
Et est-ce que vous n'avez pas écouté l'émission jusqu'à présent?
Si, bien sûr, avec beaucoup d'attention et d'intérêt. Vous êtes en forme, tous.
Je vous ai bien de l'obligation, mon petit Patrick, c'est bien gentil. Donc, vous avez présidé, parce qu'il faut, c'est la vérité, en fait, c'est lui le vrai patron occulte de la réalisation du journal.
On l'a remarqué.
Et donc, on lui a demandé d'assurer la partie réclame de cette émission, parce que moi, je fais froidement de la réclame pour mon journal, c'est dans mon émission. Hein, c'est mal, hein. Non, mais parce que j'ai réfléchi à une chose, c'est que, étant donné le nombre de gens que je reçois toujours pour dire... Donner de l'argent à un tel, donner de l'argent à un tel et tout. J'ai pas de raison que je dise pas, donnez-moi un peu d'argent aussi. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a? Pardon, je vous entends mal parce que moi je n'ai pas chaussé le casque.
Victoria était la première à chausser le casque pour avoir la joie de t'entendre.
Je vais me charger de réclamer de l'argent. J'ouvre d'abord une parenthèse. Je voudrais vous persuader de dire webmestre. Je suis sûr que beaucoup d'auditeurs francophones et francophiles partagent mon sentiment. De dire webmestre éclair et non pas webmaster flash.
Bah alors là, plus personne n'y comprend rien parce que les vieux ne comprendront pas parce qu'ils s'en foutent et les jeunes ne comprendront pas parce que c'est pas comme ça qu'on dit. Alors c'est quoi, peine perdue.
Vous voyez l'académie. Et la commission ministérielle de terminologie qui a établi qu'on devait dire webmestre, s'il vous plaît, et puis les flics, si ça ne suffit pas.
D'accord.
Alors, je ferme la parenthèse pour vous demander si je peux oser faire la promotion du Libre Journal, d'abord, parce que j'ai été tellement lamentable mercredi dernier que
ça,
la directrice générale, Madame Danielle de Beckech, m'a fait comprendre tout à l'heure très clairement que les retours étaient insuffisants.
Oui, ça c'est vrai.
Et surtout parce que j'ai peut-être rêvé, mais hier il m'a semblé que sur votre antenne, on faisait de façon insistante et répétée la promotion du magazine Marianne.
Alors
tout en décriant...
Mais qui faisait ça?
J'ai dû rêver, alors j'ai pas bien compris l'animateur ou l'invité qui faisait cette promotion, tout en décriant la presse patriotique, décrite comme une série de bulletins paroissiaux, introuvables, illisibles. Alors voilà, je sais pas si je dois oser, mais je vais quand même vous dire que le numéro 341 de notre bulletin paroissial, le Libre Journal, Ben, c'est pas mal quand même pour un bulletin paroissial, puisqu'on arrive dans un seul numéro, 341, qui est sorti des presses aujourd'hui même, à publier un reportage exclusif en Chine. Vous allez peut-être en reparler tout à l'heure. Un reportage exclusif au Pérou. Et également, nous nous sommes procurés un document interne du comité électoral, disons pour être poli, de M. Yushchenko en Ukraine. Un document qui a été imprimé plus d'un an avant les élections à quatre tours en Ukraine récemment et qui montre de façon nette et définitive les liens de ce groupe Yushchenko avec la CIA. C'est banal, je m'en excuse, mais c'est comme ça. Et nous publions ça dans le Libre Journal. Ça n'est pas tout, puisque on nous parle de paroisse. Eh bien, nous essayons de compenser, de nous rattraper après notre inculpation pour islamophobie en publiant trois pages de défense et illustration de l'islam. D'abord deux pages sur l'affaire Chagnon, ce professeur de Courbevoie qui est lui aussi poursuivi pour islamophobie parce qu'il s'est permis de citer le Coran devant ses élèves. Et nous allons plus loin avec le hadith, vous savez, qui sont ces pages d'exégèse, ces livres d'exégèse du Coran. Et nous donnons des extraits de ce hadith que Joe Jackson, le père de Michael Jackson, ferait bien d'étudier et de citer au juge.
Mais c'est pour ça qu'il est devenu musulman, Jackson, Michel Jackson. Okay.
Alors vous savez que Joe Jackson, le père qui a martyrisé, qui a fait un enfer de l'enfance de Michael Jackson, et d'après certains psychologues, ça expliquerait bien des choses, il vient de déclarer à CBS que le procès intenté à son fils, c'était du racisme anti-noir, bon, ce qui est une défense un petit peu banale, disons. Et là, s'il connaissait ces extraits du hadith que nous publions, il pourrait démontrer que c'est de l'islamophobie, et qu'il faut donc laisser son fils tranquille. Alors je continue avec le bulletin paroissial, puisque, et là on arrive au cœur même de notre paroisse, puisque des milliers d'auditeurs de Radio Courtoisie, de Lyon, de Toulouse, Bordeaux, Nantes et même de la région parisienne auront plaisir à se revoir sur une grande photo que nous publions de la manifestation du 23 janvier dernier contre l'avortement, place de l'Opéra. Et puis, vous y avez fait allusion tout à l'heure, nous avons également bénéficier de quelques indiscrétions au sujet du préfet Aïssa Dermouche, du préfet ethnique, qui est accusé d'abandon de famille, de non-paiement de pension alimentaire. C'est dans votre éditorial, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure. Voilà, alors tout ça, plus la signature historique de François Brignot, son feuilleton actuellement sur les présidents de la République qu'il a connus, Jérôme Brigadier, etc., etc. 24 pages que je ne peux pas détailler. Tout ça, on peut le retrouver gratuitement, mais en partie sur le site internet francecourtoise.info, qui vient d'être rétabli grâce à notre webmestre, Monsieur Le Francien. On peut avoir le numéro, un spécimen pour 5 euros ou un carnet de timbre, et on peut s'abonner un an, 3 numéros par mois, pour 110 euros. Tout ça à la même adresse et au même ordre, SDB. 4 places France List, 75-010, Paris.
Tu as oublié de dire qu'il y avait un excellent papier signé Patrick Goffman sur l'Homme et Cause.
Très très bon papier, remarquable.
Avec la modestie est ma principale qualité, voyons.
J'avais remarqué.
C'est même de l'humilité à ce niveau-là. Mon cher Patrick, merci beaucoup, bonne soirée, tenez-vous bien.
Je vous écoute.
À bientôt.
Vous. Bonsoir.
Il est très bien, ce garçon. Il est très bien, oui, je vous dis. J'ai une autre information, puis après on arrêtera avec ça, parce que c'est vraiment intéressant. Voilà, il y a un commerçant de Besançon, commerçant bisontin, on dit quand on est journaliste et qu'on connaît les mots, qui, le jour de la grève, comme il n'était pas content du tout, il a dit, lorsque... Parce qu'on lui dit une contrôleuse a été violée. Et c'est pour ça qu'on est en grève. Alors, lui, il dit à l'employé de la SNCF qui était là, et il dit, quand une concierge se fait violer, toutes les concierges ne se mettent pas en grève. Et quand une cliente de la SNCF se fait violer, la SNCF ne se met pas en grève. Donc, je trouve que vous avez une drôle de conception de la solidarité. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, un employé de la SNCF m'a dit que puisque je le prenais comme ça, je ne partirais pas. Je lui ai répondu qu'il poussait un peu que j'avais payé mon billet et qu'ils avaient intérêt à me laisser monter dans le train, à ce moment-là, trois agents de la surveillance générale de la SNCF sont arrivés. Ils ont chargé les ils ont arraché les bagages du voyageur. Ils les ont chargés sur un chariot. Il a sorti, lui, voyant ça, a sorti son téléphone portable pour appeler son avocat. Il a dit, c'est comme ça, j'appelle mon avocat. Ils ont arraché son téléphone portable, ils l'ont menotté, et ils l'ont emmené à travers toute la gare de Lyon jusqu'au commissariat de la gare, où ils l'ont gardé, ils l'ont séquestré pendant 4 heures. En le tutoyant, en le bousculant. Alors naturellement, ce monsieur n'a pas du tout l'intention de laisser les choses en l'état. Il a donc porté plainte contre la surveillance de la SNCF pour violence. Et l'affaire passera le 6 mars devant le tribunal. Donc la SNCF, qu'est-ce que c'est leur slogan? On fait plus pour vous les gens qui écrasent, qui relient les gens quoi,
oui, c'est ça, c'est l'ADF.
Ah oui, c'est pareil. Et là, c'est quand même étonnant, non? Bon, mais c'est pas tout. Je crois que j'avais déjà raconté cette histoire. Dans le TGV Paris-Nice, il y avait un bon curé qui était installé en costume le clergyman. Il a sorti de son petit sac une pomme, et puis un petit canif, et il a commencé à trancher sa pomme avec son canif pour manger. À ce moment-là, il y a une contrôleuse qui est arrivée, elle a eu probablement peur d'être violée par un curé avec un canif, et elle a fait arrêter le train en gare à Chalon. Et les flics sont montés et ils ont embarqué le curé, ils ont confisqué son couteau et sa pomme, ce qu'il en restait, et ils l'ont emporté au commissariat, et il a dû attendre plusieurs heures d'être libéré. De pouvoir reprendre un train le lendemain matin.
La pomme, c'est le début des enquiquinements. Hein. La pomme, c'est le début des enquiquinements.
Ça commence comme ça. C'est incroyable, enfin. C'est incroyable. Prenez pas le train, c'est dangereux, le train. Bon, vous risquez d'être attaqué, d'abord, voire violé, si vous êtes une contrôleuse.
Par les contrôleurs.
Hein, oui. Non, je pense pas. Alors, ça me fait pas du tout. Il y a un auditeur qui dit le sigle SNCF, ça veut dire sur 9, 5 feignants.
Non. Ben, on n'a pas le droit.
Très optimiste. Bien. Et puis un auditeur qui demande qui va payer le retour des musulmans qui sont bloqués à la Mecque. Mais moi, je comprends pas qu'ils veulent revenir, parce qu'il paraît que la Mecque, c'est un vrai paradis. Pourquoi ils y restent pas? Ils ont la chance d'être arrivés au paradis, ils peuvent pas revenir. Bon, alors là, je resterai.
Oui. Mais non, il faut avoir fait le pèlerinage une fois dans sa vie.
Bah,
donc pour faire le pèlerinage, il faut revenir.
Ah bon?
Et pour voir dessiner. Non, sinon, ça ne vaut rien.
S'arrêter.
Pour voir dessiner sur les murs de la maison pour dire qu'on est hadj, c'est ça, je crois.
Oui.
C'est ça. Ah, bah, j'y suis vite.
Mais c'est pas la peine d'aller faire de la mendicité, parce que comme vous savez, ce hadj est sans pitié.
Et voilà.
Bien, voilà, je suis très content. Alors maintenant, dans mon programme, vous m'avez volé mon programme, Victoria.
Quel programme?
Le programme de l'émission, parce que j'ai des invités, c'est ça?
Voulez-vous que je lise quelques messages pendant que vous le
cherchez? Oui, voilà, c'est ça,
c'est
bon ça.
France 3, ce matin, annonçait que Bruno Gollnisch avait été pris violemment à partie lors de sa rentrée à l'université de Lyon 3.
Bah oui, pas violemment, il a été pris à partie, et puis les gars sont partis après l'avoir pris à partie, et il a fait son cours tout à fait normalement.
Et il en a pris son parti.
Et non, en prenant son parti.
Crépy en Valois et dans l'Oise.
Voilà, mais ça change tout. Non, c'est pas ce que vous disiez?
Je ne sais pas,
mais bon, c'est tout.
C'est tout.
Ah, c'est pas dans l'Aisne.
Non, mais c'est qu'il y a plusieurs crépy. Oui.
Rappelez l'adage. Une pomme, deux poires et beaucoup de pépins. J'ai beaucoup apprécié.
C'est le résumé de la jeunesse.
J'ai beaucoup apprécié ce que Patrick Goffman a dit à propos d'un patron d'émission de Radio Courtoisie qui a dénigré notre presse. Et je remercie Patrick Goffman de l'avoir dit.
Comment c'est un patron d'émission? Qui c'est ce monsieur?
Philippe de Saint-Robert.
Le baron Philippe de Saint-Robert
dans l'émission.
Ancien haut commissaire à la langue française.
Dans l'émission. Mais
vous connaissez pas, moi non plus, je suis entendu ça.
Il était invité ou?
Non, il remplace Reichmann une fois par mois.
À Radio Courtoisie?
Oui. Attendez, je vérifie si c'était bien sur 95.6.
Non, je crois pas.
Ah, ça doit être sur une autre radio.
C'est sur une autre radio, c'est pas possible. C'est quoi?
Je sais, je viens d'oublier dedans. Je sais qu'ils font la paire, mais
Non, alors je sais pas. Enfin, en tout cas, je peux pas. Non, à mon avis, quelqu'un s'est trompé.
Oui.
Vous deviez écouter Radio CGT ou
un truc comme ça.
Vous
parce que parler de Marianne.
C'est tellement proche. Oui. C'est tellement proche les points.
Ah, de... sur la bande FM, ça se chevauche.
Ouais. Voilà. Aurait-on le plaisir à la.
Mais c'est peut-être pas lié en fait aussi, parce qu'il y a ça. Il croit de toute bonne foi que c'est un journal paroissial, le Libre Journal, ou Rivarol, ou.
Rivarol comme journal paroissial ces derniers temps.
Oui, c'est un journal paroissial qui fait un peu de bruit en dehors de
dans l'Anderno, oui.
Oui, alors quoi d'autre ?
Aurait-on le plaisir et l'avantage de voir Patrick Goffman à Notre-Dame des Armées dimanche prochain ?
Je ne suis pas dans
il ne sera pas désarmé, il est toujours armé, il a un paquet de livres journaux,
voilà.
Journal.
Pourriez-vous nous parler du film sur Mitterrand ? Irez-vous le voir ? Est-il vrai que Charras ne voulait pas que ce film paraisse ?
Mais il n'est pas le seul. Moi, je l'ai vu, le film. La façon dont est filmé Bouquet, c'est pas mal. Ça rappelle du philo quand on l'avait filmé en pétain. On fait des trois quarts face, etc.
C'est rapproché.
Vous voyez le raccourci. Et Charras, Pierre Berger, c'est des tas de gens qui étaient contre parce que tous ceux qui assistaient au fameux dîner des Hortelans disent que c'est pas vrai. Et comme c'est le point de départ du film, ça a fait polémique.
Charras, c'est pas le mec qui fabrique des entrecôtes sous vide, là ?
Oui, si c'est ça. Oui, oui.
Ouais,
oui c'est vrai qu'il a bien l'air d'un boucher. C'est,
ouais. Ouais.
Le boucher à bretelles.
J'ai reçu une facture, nous dit cet auditeur,
on
de la paiera 9,
pas.
Sans avoir été averti et sans avoir rien demandé.
Oui.
Il m'avait inscrit d'office et on avait prévenu France Télécom, qui m'avait écrit pour regretter que je les quitte. Prévenir les auditeurs de ces méthodes très limites.
Voilà. Borderline, on dit.
Hein
borderline. Oh, pousse, pitié. Je ne comprends plus
quelque
rien.
Quelque part, on dit borderline.
Donc ça, c'est
tout.
Tout
bon,
suite,
alors
c'est
voilà.
Tout
maintenant, je me tourne vers nos invités de ce soir. Et alors, je vais demander peut-être à Guy Prival de laisser sa place à Vinnie Wurmeling, qui est merci pour quelques instants, afin qu'il ait un micro. Alors, nous avons l'honneur et l'avantage de recevoir la princesse Murat. Altesse, bonsoir. Ma première question sera une question d'histoire. Vous venez de Géorgie. Mais enfin, vous étiez en France. Vous êtes née en France et vous êtes française, mais vous vous êtes installée en Géorgie. Et j'ai fait une rapide enquête et je crois que vous avez des... Il y a une vieille tradition de Murat en Géorgie ou de Géorgie dans le cœur des Murats. Je ne sais pas comment il faut dire. Mais quelle est l'histoire de cette relation particulière avec ce pays improbable ?
Alors, c'était l'idée de Napoléon III, après la guerre de Crimée, que la France ait un œil dans le Caucase. Et alors, ce qui est beaucoup moins cher qu'une guerre, c'est un mariage. Et donc, il avait décidé de marier Achille Murat, qui avait 22 ans, avec Salomé Dadiani, qui était la fille du prince héritier de cette région du bord de la mer Noire, qui est la Mingrélie. Et donc, ce mariage, après, quand Napoléon III, quand l'Empire est tombé, ils sont partis là-bas, et ils ont eu des enfants, et puis des petits-enfants, et des arrière-petits-enfants, que nous sommes.
Et quand sont-ils revenus en France ? Quand ont-ils quitté la Géorgie, je pense, au moment de la Révolution ?
Contraints et forcés par les bolcheviks. Et donc à ce moment-là, c'est mon beau-père qui avait 17 ans, mais lui, il était resté français de nationalité. Donc il est venu pour combattre les Allemands, c'était la fin de la guerre 14, et il a combattu comme pilote. En arrivant du Caucase, il a combattu. Et puis ensuite, bon, la guerre s'est terminée. Et les bolcheviks ont envahi, Menchevik d'abord, ont envahi la Mingrélie. Là, la famille s'est sauvée. Enfin, ils en ont assassiné deux ou trois au passage. Hein. Mais enfin, les autres sont arrivés à se sauver. Les biens ont été confisqués. Et puis, les archives brûlées, les livres brûlés. Mais des souvenirs quand même de la famille Murat sont restés, comme le masque mortuaire de Napoléon. Enfin, voilà.
Est-ce que les Géorgiens aujourd'hui sont conscients, sont informés de ces relations, de cette d'histoire commune ?
Ça fait partie de leur... très très informés. D'abord parce que c'était un pays tout à fait francophone, en ce sens que depuis le XVIIe siècle, on apprenait le français à l'école, ce qui était la tradition de beaucoup des pays de l'Est. Et ensuite, quand même, cette princesse Dadiani, quand elle est venue au Louvre, enfin quand elle est venue, elle habitait la rue de Rivoli, elle a tout de suite été dame d'honneur de l'impératrice Eugénie. Donc c'était quand même des familles qui étaient d'abord francophones et ensuite tout à fait connues comme étant des gens puissants.
Ils étaient catholiques ou orthodoxes?
Orthodoxes.
Ils étaient orthodoxes.
Oui. Alors le mariage a eu lieu le 18 mai 1868 et ce mariage a eu lieu d'abord dans la chapelle, enfin dans une pièce des Tuileries, puisqu'il n'y avait pas de chapelle et que c'était comme ça, et ensuite dans la rue Larue qui n'était pas encore terminée.
La grande cathédrale.
La grande cathédrale russe, c'est ça.
Alors aujourd'hui, l'époque glorieuse de la Géorgie est passée. Ça n'est plus apparemment le pays que ça a été quand chantaient les poètes. C'était devenu,
voilà, c'est devenu légèrement
différent. Et comment ça se passe pour vous là-bas? D'abord, pourquoi allez-vous installer dans un pays aussi désinvité?
Il y a eu un concours de circonstances. Nos enfants aînés étaient envolés. Il nous restait avec nous qu'une petite fille de 11 ans. Et puis alors, comme la tradition le veut là-bas, la famille, c'est la famille. C'est le seul voyage officiel où on était invité avec nos enfants. Et en fait, cette petite fille s'est passionnée là-bas. Elle a dit, mais c'est mon pays, mais il faut y retourner, mais il faut les aider. Il faut dire que le visage de mon époux est très, très géorgien.
Oui, on m'a dit ça. Oui.
Voilà, il a des cheveux noirs, des moustaches. Et si vous voulez, toute sa vie, on lui a dit, mais de quel pays venez-vous? Vous n'êtes pas français? Il disait toujours, non, je suis géorgien. Si vous voulez, pour lui, c'était quand même le pays de sa famille, quelque part. Alors, quand on est retourné là-bas, on a été conquis, enfin, puis on s'est dit, on a eu un accueil d'abord extraordinaire de... D'abord, moi, je pensais qu'ils avaient complètement oublié le rôle de cette famille qui a quand même régné là-bas pendant 1500 ans. Et donc, on s'est dit, après 1500 ans, 80 ans de communistes, ils auront tout oublié. Ben, pas du tout. On est revenu et ils étaient tous excessivement accueillants, excessivement gentils. Et puis, ils nous suppliaient, venez nous aider, il faut absolument nous aider, revenir. C'était très, très émouvant.
Quand on lit des récits de voyage, même récents, on a l'impression que c'est une espèce de pays de cocagne. On a l'impression que c'est un pays où il fait un pays de soleil, un pays de culture méridionale. Enfin,
méridionale, tout à fait. Alors, on est dehors.
Comment expliquez-vous la pauvreté qui règne là-bas?
Alors c'est une pauvreté d'abord qui ne se voit pas. Personne ne va quêter dans la rue, ne va. Vous voyez, c'est un peuple très fier et qui ne va absolument pas montrer sa pauvreté dans la rue, que ce soit mes étudiants. J'ai des étudiants là-bas parce que je donne des cours de français et d'histoire. Et en fait, mes étudiants, comme les professeurs de français, quand je les vois, elles sont impeccables, comme pour aller à un cocktail parisien. Je veux dire, impeccables. Les chaussures sont cirées, impeccables. Bon, beaucoup plus soignées que nos petits français à l'université, ça c'est sûr. Mais alors, quand vous arrivez chez eux, ils sont d'une pauvreté terrible, terrible, terrible.
C'est-à-dire, c'est une pauvreté qui les prive du nécessaire ou simplement du superflu. Ils n'ont pas de télévision, ils n'ont pas de voiture, mais est-ce qu'ils mangent normalement? S'habillent normalement?
On mange avec du pain et puis de temps en temps une sauce tomate, quoi. Alors on trempe le pain dans une sauce tomate.
C'est ça que j'ai du mal à comprendre, parce que c'est un pays agricole encore.
Oui, mais alors, ils ont remplacé beaucoup de cultures par du maïs. C'est pas bon.
Ouais, ensuite, ils sont affamés par un système qui les a conduits à abandonner leur tradition vivrière.
Absolument. Alors, les arbres fruitiers, c'est-à-dire, moi, je vous parle de la région le long de la mer Noire, la Mingrélie, l'ancienne colchide de Jason et tout cela. Ça, c'est le long de la mer Noire. Et là, c'est un climat subtropical et les communistes ont arraché les orangers des citronniers pour mettre du thé. Alors, ces espèces de petits arbustes, ils poussent moyennement bien, et toute l'économie est complètement bouleversée à cause de cela.
Et ils n'ont pas encore eu le temps d'essayer de réparer les dégâts?
Pour l'instant, c'est complètement abandonné. Vous savez, quand toutes les têtes sont parties, il ne reste plus personne là-bas. Personne n'arrive à remonter le pays. C'est excessivement difficile.
Et justement, est-ce qu'ils ont une conscience nationale très forte?
Oui, ils sont toujours avec la mentalité, on a un beau pays, très ancien, on est les meilleurs, on va bouger, mais en fait, ils sont encore très, très passifs, très passifs. Et quand j'ai demandé des projets à des étudiants en leur disant, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Ils sont tous pareils, ils veulent être professeurs de français, ça c'est quand ils sont bons en français, professeurs d'anglais parce qu'on travaille dans les organisations internationales qui donnent des salaires de 40 à 50 fois plus d'un salaire normal du pays. Alors bon, donc ils veulent apprendre l'anglais, sinon le droit. Point. Mais alors justement, c'est un des projets, c'est de chercher des stages, parce qu'ils ont besoin de voir ailleurs, ils ont absolument besoin de comprendre qu'il y a autre chose que le droit et être prof, quoi.
En fait, ils veulent pas travailler, ils veulent pas travailler la terre, ils veulent pas travailler.
Ils ont le fruit de
70 ans de communisme.
Ils n'ont aucune idée. Tout doit tomber du ciel sans rien faire, quoi.
Quelle est l'idée qu'ils ont de Staline?
Beaucoup sont encore très 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 favorables, ils ne pouvaient pas faire autrement, ils devaient faire ça, c'est le sens de l'histoire, ils sont encore très très imprégnés, très imprégnés.
Et à votre avis, c'est une chose qui s'atténue ou c'est une chose qui...
Ça s'atténue avec les nouvelles générations, ah ça c'est certain. Vous avez cette réaction russe en tant que langue russe, c'est déjà très forte, ils ne veulent plus apprendre le russe, ça c'est fini, dans les écoles ils ne veulent plus, il y a vraiment une réaction excessivement forte contre le russe et la littérature.
Ils ne pourront pas s'en sortir sans la Russie, économiquement. À moins qu'ils guignent l'Europe comme l'Ukraine.
Ils guignent l'Europe et puis ils ont les Américains. Hein. Les Américains sont là-bas, mais alors partout.
Ouais, c'est ça.
Ils sont en train de vendre un port aux Chinois et aux Américains. Enfin, c'est quand même effrayant.
Ouais. Oui, on voit très bien le processus. C'est le processus qui frappe en Ukraine, c'est celui qui a fonctionné en Serbie, c'est celui qui commence à se manifester très fortement en Albanie, toujours avec les mêmes gens derrière, les mêmes organisations qui sont des masques de la CIA. On voit très bien ce qui se passe. C'est assez catastrophique, je dois dire, parce que je pense pas que ça va déboucher sur grand chose de pratique pour eux. Je crois pas, je les vois pas dans l'Europe. Enfin, je pense que personne de raisonnable ne peut
Ils sont quand même plus européens que les Turcs.
Oui, c'est une affaire entendue, mais oui, bien sûr. Tiens, à propos des Turcs, je voudrais quand même signaler un petit détail. C'est pas vraiment à propos des Turcs, mais M. Mario Monti a donné une interview dans le Figaro du 29 et du 30 janvier, que personne n'a lu, bien entendu, puisque personne ne lit les interviews des responsables politiques importants. Commissaire européen Mario Monti, qui dit comment il fera mon plan numéro un si le non l'emporte. À la vote pour la Constitution. Alors, il commence à dire, on va pas obliger les gens à voter oui. Bon, il dit d'ailleurs, l'Union n'a pas à exercer ce genre de violence à l'encontre d'un ou plusieurs de ses membres récalcitrants. Mais les 25 chefs d'État et gouvernement qui ont tous signé la Constitution et sont donc tous favorables à son adoption. Donc, en cas de victoire du non, il faut le savoir. Il faut savoir que, voilà, c'est ça, écoutez bien, en cas de victoire du non, il faut le savoir, une deuxième consultation aura lieu, avec une question différente. Allons jusqu'au bout du problème. Un bon moyen d'inciter à la réflexion, point de suspension. Je pose la question une fois, tu réponds mal, ça va. La deuxième fois, tu réponds mal, tu vas la fessée. Et alors, on lui pose la question, que se passait-il pour un pays qui quitterait l'Union? Dans ce cas, à mon avis, ses partenaires devraient prendre l'engagement de coopérer de façon loyale avec lui pour régler les problèmes facilitant son retrait.
Mmh.
Car il ne s'agirait pas de le pousser dans le vide. Et l'Union n'est pas une prison. C'est un club de 25 membres, et demain encore plus. Il faut donc des règles pour y entrer. Et aussi pour en sortir. Voilà. Donc vous êtes prévenu,
bon,
mec. Hein, ouais.
C'est
ça. C'est-à-dire, oui, avec la fessée de rigueur.
Inconnu.
Ceux qui vont voter oui sont des criminels. Je le dis comme je le pense. Des criminels ou des imbéciles, et c'est souvent la même chose.
Alors. Une auditrice demande, pouvez-vous nous parler du nouveau drapeau de la Géorgie? Celui avec la croix de Saint-Georges.
Ah, c'est en effet un nouveau drapeau. Depuis la nouvelle élection de Micha Saakashvili, donc il a repris le drapeau qui était le drapeau de l'église orthodoxe de David le Constructeur. C'est tout un symbole. Au XIIe siècle, vous avez eu ce grand roi qui a regroupé plusieurs provinces et qui avait comme drapeau celui-là, donc c'est l'époque des croisés, voilà. Vous avez la croix centrale et quatre petites croix qui symbolisent les quatre provinces qui avaient été réunies par David le Constructeur au XIIIe siècle.
On va préciser que les croix sont rouges et que le fond est blanc.
Voilà, c'est ça, les croix sont rouges.
Vinnie Vermeulen, qui est imbattable, a sorti de sa poche
le drapeau. La photo du prince Murat, il a tout sur lui.
Alors, puis, ça nous donne d'ailleurs le ça nous conduit à la question de la religion. Quelle est la situation religieuse maintenant en Géorgie ?
Alors, pour l'instant, c'est un renouveau absolument extraordinaire, mais vraiment extraordinaire. D'abord, bon, c'est orthodoxe, avec, c'est autocéphale, avec un patriarche qui est patriarche, qui a fêté ses 25 ans de patriarcat, de direction, en tout cas, il y a 3 semaines. Le patriarche a autour de lui un certain nombre d'évêques. Depuis 5-6 ans, il a nommé d'autres évêques, enfin, réorganisé les diocèses de l'ensemble du pays, et c'est vraiment énormément de nouveaux prêtres qui sont ordonnés. Nous, dans la ville où nous sommes, depuis 6-7 ans maintenant, on a vu ordonner, écoutez bien, ouvrez grand vos oreilles, 17 jeunes gens.
Ouais.
En 7 ans, 17.
Mais c'est une ville de combien d'habitants ?
40 000 habitants et 60 000 réfugiés, quoi.
Il y a 15... à Paris, je crois qu'il y a 15...
Ordination
par an.
Oui, tout juste.
Avec, hein. Avec Lulu, oui. C'est de l'ordre de 15 par an. Ouais. Donc ça veut dire que dans une ville où il y a 15 fois plus d'habitants...
C'est énorme.
C'est...
Et puis alors, vous avez les baptêmes. Vous savez, les baptêmes sont de plus en plus nombreux, mais c'est pas la même approche. Comment vous expliquer ? C'est pas du tout la même approche de la religion. C'est-à-dire que là-bas, vous allez demander le baptême. On vous baptise tout de suite sur le champ, ou demain, ou après-demain. Vous demandez à vous marier. Ben, vous pouvez vous marier dans l'heure qui suit si le prêtre est là. Alors d'abord, les églises sont tout le temps ouvertes. Alors ça, quel changement ! Ça vraiment. Les églises tout le temps ouvertes où vous pouvez aller et prendre le conseil d'un prêtre, parce que le prêtre est dans son église. Il y a toujours un prêtre dans toutes les églises toute la journée. C'est clair, c'est simple. C'est pas une fois par semaine pendant 2 heures. Non, non. Donc il se relaie, et puis alors vous avez les sacrements sont, enfin surtout le baptême, c'est on va pas vous obliger à suivre des cours de catéchisme pendant des années, quoi. Hein. Non, 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 on vous fait confiance, on vous baptise, et voilà.
Tandis qu'à Paris, là, dans ma paroisse, si vous voulez faire baptiser un enfant, même un enfant en bas âge, il y a 3 mois de préparation, avec des cours pour les parents, 2 cours obligatoires, à des dates qui sont fixées, il y a un baptême collectif un dimanche par mois,
voilà.
Et les parrains et marraines doivent assister au cours, sinon on baptise pas. Donc effectivement, là, à ce rythme-là, je crois que le nombre des baptêmes va très vite être réduit à zéro, parce que ne serait-ce que quand on veut organiser un dîner de famille, il faut prendre son élan 6 mois avant pour avoir des rendez-vous, des gens qui peuvent être là. Donc là, c'est absolument... Et on voit, il y a une mauvaise volonté qui est absolument claire. C'est le meilleur moyen de vider les églises.
Bah, on est sur toute la chaîne du baptême à l'enterrement, hein, c'est aussi compliqué.
Oui, bah, l'enterrement, ils n'en font plus. Alors, voilà, c'est encore plus clair.
Alors, les prêtres, bah, sont en costume, sont en aube, ouais. Les évêques aussi, le patriarche, évidemment. Au moins, on voit qu'ils sont tout de suite.
Ah bah, j'ai une très belle photo sous les yeux, là, qui est prise dans une...
La résidence du patriarche,
avec le patriarche entouré de ses amis, de ses collaborateurs et des pèlerins d'ailleurs de l'UNEC, oui, je reconnais quelques visages. Et on voit que c'est pas des curés de gauche, hein, pour te dire. Hein, c'est pas l'ambiance curé de gauche, oui, c'est assez clair. Est-ce que l'Église catholique est présente ou pas du tout ?
Oui, il y a une communauté catholique dans la capitale. Et alors là, curieusement, elle est très très traditionnelle. Comment vous expliquer ? Les chants sont traduits dans la langue du pays, mais c'est les mêmes mélodies que dans l'Église catholique. Les Noëls, par exemple, enfin tout ça. Mmh. Et puis alors on communie à genoux. Comment ? C'est un mélange entre eux. Ils ne peuvent être que imprégnés, que influencés par les orthodoxes qui sont à côté d'eux, et donc communier, c'est à genoux, c'est la tradition.
Les religions comiques sont représentées ?
Non.
Il n'y a pas de religions comiques.
Ah, non, non,
c'est
non.
Dommage, parce que des fois c'est rigolo, les religions comiques.
Mais comment ?
Alors c'est pareil dans la religion orthodoxe géorgienne, et communier est un acte tellement sacré tellement grand et extraordinaire qu'alors il faut donc la prière la veille, la prière en commun, enfin à l'église pendant au moins 2 heures, la prière perso pendant au moins 3 heures. Ensuite, on mange pas, on dîne pas, on jeûne presque complètement. Bon, enfin, on peut manger un petit bout de pain.
On a le droit de boire un peu d'eau.
Un peu d'eau. Après, à partir de minuit, on ne boit pas, on ne mange pas. Mm-hmm. Après, on a une prière perso le matin de 2 heures. Et après, il y a la messe qui dure 2 heures. Et enfin, on communie. Comment oui. Il faut s'être confessé 1 ou 2 jours avant, grand maximum.
Oui, oui, bah, ça a toujours été comme ça. Moi, je me souviens de ma grand-mère qui pratiquait ça de façon régulière et qui faisait le carême comme ça aussi.
Même notre enfant, enfin mon enfant, je suis plus âgé que vous, mais même quand j'étais enfant, c'était le frère encore.
Plus âgé que moi.
Est-ce que je peux poser une question à la princesse?
Faites ce que vous voulez.
Une question un peu simplette, mais j'aimais beaucoup vous voir dans Paris. Je voudrais savoir comment vous vivez là-bas. J'espère que vous ne mangez pas que du pain et de la sauce tomate quand même, non?
Bah, écoutez, c'est pas facile. Parce que d'abord, moi, je ne suis pas un champion de la cuisine.
D'accord.
Alors, d'abord, les bêtes ne sont pas découpées pour avoir de la viande. C'est très difficile puisque les bêtes sont très bizarrement découpées. Alors, on ne sait jamais ce qu'on va trouver. Alors ensuite, on est obligé d'avoir les légumes du pays, parce que là-bas, il n'est pas question de manger des tomates en hiver, ça c'est n'importe quoi. Donc on mange les fruits aux saisons, les fruits ont des formes pas possibles, des aubergines, des choses bizarres. Mais
elles ne sont pas traitées, quoi, en plus.
Ah ben voilà, alors là, pour être bio, c'est bio, croyez-moi, il n'y a pas de choix.
J'ai connu ça en Bulgarie, ça avait le goût de cerise, enfin.
Ah ben voilà. Alors, l'hiver, c'est patate chou, chou, patate, patate chou.
Bon, ça ne vous réussit pas trop mal.
Voilà, je peux progresser.
Oh non, je trouve pas.
Et puis l'été, par contre, alors là, on a tout.
Non, enfin, c'est pas trop, parce que je me souviens que vous avez été quand même, vous et le prince, un des plus beaux ornements des soirées du Cercle Monterland du temps de Jacques de Ricomont. Alors, je dis c'est un changement de vie qui vous honore quand même.
Ah oui, donc c'est vraiment dur.
Enfin, merci de m'avoir répondu.
Le plus dur, c'est de se laver les cheveux, ça a l'air idiot. Mais alors, on n'a pas d'eau, pas d'électricité. Non, parce que si vous n'avez pas d'électricité, vous n'avez pas d'eau, puisque c'est une pompe électrique qui monte l'eau du puits dans une réserve. Alors, vous imaginez le truc, vous avez une télé qui vous attend, vous commencez à vous laver les cheveux, paf, plus d'eau. Vous avez la tête remplie de shampoing, et que faire? Alors, il faut descendre au puits, prendre un seau, la tête... Bon, enfin, vous imaginez le truc, quoi. Et alors, ça vous explique pourquoi il ne faut jamais être seul. C'est un pays où les gens sont très solidaires, parce qu'en fait, vous ne pouvez pas être seul. Quand vous vous lavez les cheveux, il faut quelqu'un pour vous aider, même quand vous vous lavez tout court. Comme au Moyen-Âge, on est accroupi dans son baquet, on vous frotte le dos, et hop, on vous rince. Et il n'y a pas le choix, il faut faire ça. Alors, mais si, vous pensez que...
Mais vous avez l'air heureuse, quand vous en parlez, on sait pas...
Je me posais la question.
J'avoue qu'arriver à Paris, vraiment, ça fait du bien.
Demain, c'est très grave, mais...
Parce que c'est très compliqué, tout est compliqué quand vous n'avez pas d'eau.
Ah oui,
pas d'électricité, vous ne pouvez pas avoir de frigidaire, l'été il fait 40 degrés.
Ouais.
Donc, alors on met les trucs dans un seau et dans le fond du puits.
Un puits.
Vous voyez ?
Avec un voile dessus.
Oui, 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 avec un tissu dessus. Enfin, alors on revient à des choses.
Il y a peut-être aux vraies valeurs, tout compte fait.
L'essentiel.
Alors la bougie, c'est toujours pareil. Quand on a eu le groupe Lunac, oh, que c'est romantique. Je vais vous dire, vous allez voir si c'est romantique tous les jours.
Vili, croyez que vous lui aviez organisé un dîner aux chandelles.
Voilà, c'était vraiment le dîner aux chandelles.
On avait quand même annoncé que c'est un pèlerinage dur.
Hein. Ouais. Et alors, le pèlerinage, c'est quand même curieux pour un catholique d'aller faire un pèlerinage en pays orthodoxe.
Oui,
quel est le motif de ce pèlerinage?
En Géorgie orthodoxe. Nous, on cherchait un peu le renouveau, le renouveau du christianisme qui se fait jour à l'Est grâce à cette ouverture qu'il y a à la suite de la disparition, au moins officielle, du système soviétique et autres. Donc il y a une véritable chance pour les églises. Et nous, on était vraiment, on voulait voir ça. Parce que c'est quelque chose à voir. Toute cette jeunesse qui vient en masse. On était vraiment coincés comme des poissons dans la cathédrale le 14 juillet, n'est-ce pas? 14 octobre, voilà. Pour la fête de la Sainte-Unique à Amsieta. On était coincés. On pouvait même pas sortir le rosaire, par exemple, de la poche. Et on suivait les mouvements de masse. Donc, indiquait qu'un passé, là, tout le monde reculait 20 centimètres, etc. Mais alors, on se tient par la chaleur humaine aussi. Alors, les jeunes, avec une religiosité totale, personne ne parle. Pourtant, la liturgie, elle est derrière l'iconostase.
On ne voit rien, absolument.
De temps en temps, une bénédiction, l'évêque qui sort, mais c'est tout. Mais ça dure 4 heures. Et tout le monde est là. Et puis, on entend simplement ces chants éternels, je dirais, comme chez nous, le grégorien, c'est à peu près le même âge, d'ailleurs, tous ces chants. Et les jeunes qui n'ont pas fait le catéchisme, ils semblent comprendre.
C'est la ferveur.
Les jeunes femmes aussi qui appuient le front contre le pilier et restent comme ça pendant un quart d'heure. Mais comme ça. Alors, cette religiosité renaissante, c'est quelque chose de formidable. Et nous, on rentre chaque fois de ces pèlerinages-là avec beaucoup de courage, bien sûr.
Ouais. Alors, deux reliques. Il y a la grande relique qui est la tunique du Christ Amstretta, ouais, qui a été apportée par Saint Sidonie, donc au 1er siècle. Et puis, à Zugdidi, donc en Mingrélie, il y a la robe de la Vierge. Enfin, une robe de la Vierge qui est aussi beaucoup vénérée, qui actuellement est dans du papier de journal, parce que les communistes ont vendu les pierres et coulé l'argent et l'or. Alors là, on est en train de refaire un reliquaire et de rechercher des pierres. Si quelqu'un a une petite pierre qui traîne par là, on la prendra, parce qu'on refait le reliquaire pour mettre la robe de la Vierge.
Ah oui, alors Vinnie me fait passer les photos de cette robe, qui est effectivement dans un reliquaire.
Oui, ça c'est un reliquaire de fortune. Oui, de fortune, là. Attendez, c'est une ancienne table de toilette de la famille,
ah oui,
sur laquelle ils ont mis un carreau. Alors je vais vous dire, c'est un peu, c'est un peu honteux, mais bon, c'est quand même mieux que le papier de journal.
C'est super, c'est vraiment super. Alors maintenant, si vous êtes parti là-bas, c'était pas il y a 7 ans, c'était pas pour faire du tourisme, c'était pas pour essayer de rentrer dans vos propriétés de famille, et c'était pour aider ces gens-là par
aider ces gens-là, parce que vous savez, j'ai enseigné longtemps à l'université de Lille, puis l'université d'Artois, et j'avais fini mon mandat vis-à-vis des petits Français, c'est-à-dire 20 ans d'ancienneté, 5 enfants, donc je trouvais que j'avais assez donné, et j'avais envie de donner à des enfants qui étaient plus demandeurs, si on peut dire. Et donc je suis arrivée là-bas avec j'ai enseigné le français, après je me suis occupée de la formation des professeurs de français, je m'en occupe toujours avec beaucoup de difficultés, mais heureusement j'ai des financements italiens et américains. Vous êtes bien assis, c'est eux qui financent la formation des professeurs de français. Je n'ai rien de personne d'autre sauf des Italiens et des Américains. Alors bon, alors donc je m'occupe de ces professeurs de français, de diffuser le français. Nous avons créé une école là-bas qu'on a appelée une école Prince Murat, qui marche très très bien, très très bien. On a beaucoup d'enfants. Et grâce à des donateurs un peu partout, on a pu vraiment développer ça. Et puis sinon, je m'occupe avec le ministère de l'éducation géorgien de ce qu'ils appellent les internats. Alors ça, c'est quelque chose. En fait, c'est l'endroit où on mettait les enfants en paria de la société, quoi. Hein.
Maison de correction.
Oui, oui, mais... Il y avait aussi des enfants de parents malades, des cas sociaux, donc quand les parents se disputent, ben on met l'enfant à l'internat. Alors là, c'est des mouroirs pour enfants, c'est abominable. Ils n'ont pas du tout aucune condition d'hygiène, ils n'ont rien.
Encore
rien,
maintenant.
Rien. Encore maintenant, encore maintenant. Alors on est en train de faire bouger tout ça. C'est très très difficile parce que des organisations internationales restent à Tbilissi et sous prétexte que c'est dangereux de quitter la capitale, vont nulle part. Et donc,
mais c'est vraiment dangereux ?
Pas pour nous, mais pour moi, j'ai jamais été en danger. Je me sens pas du tout en danger. Maintenant, il est vrai que quand on a la carte de visite en géorgien avec Murat dessus, ça
oui,
du tout
ça calme bien.
Ça, c'est vrai que ça aide. Ça aide énormément.
Est-ce que je comprends mal? Je reviens tout le temps sur cette idée, c'est que dans ce pays qui est de tradition agricole, qui est de tradition vivrière, enfin, qui vivait en autre, qui a vécu en autarcie pendant longtemps, et qui était en même temps un pays de passage puisqu'il était sur la route de la soie, plus ou moins, et plutôt plus que moins d'ailleurs. Donc dans ce pays, par exemple, pourquoi enfermer les enfants? Pourquoi pas les mettre dans des fermes à la campagne pour essayer de leur redonner le goût du travail de la terre, des choses comme ça? C'est effrayant,
c'est encore le système communiste, parce que ces internats, quand vous avez 150 enfants, en réalité, vous avez un internat de 150 enfants, Bon, à Tbilissi, le directeur de l'internat va dire qu'il y en a 300. Pourquoi ? Parce qu'il aura beaucoup plus d'argent à se mettre dans la poche. Bon, ces 150 enfants sont gardés par 72 profs.
C'est incroyable.
Vous imaginez, 72 qui vont toucher un salaire. 72, c'est la vérité. Mais le directeur de l'internat, lui, va dire qu'il y en a 150. Et avant, c'était répercuté à Moscou. C'est la même chose pour les musées. L'ancienne, ce qu'ils appellent le musée, qui pour nous est la propriété de mon beau-père, qui maintenant est un musée, si on veut. Enfin, il est pourri, il est bon, hein, il est mangé par les vers et les trois quarts des objets ont disparu. Mais bon, dans cet endroit, il y a 120 personnes pour le garder et il n'y a personne. Il n'y a pas une feuille de ramasser, il n'y a pas une fenêtre ouverte un seul jour de l'année.
C'est terrifiant.
C'est terrifiant.
C'est un pays qui a été tué par le
communisme. Tué par le communisme, tué, complètement tué.
Ouais.
C'est ça le drame.
Est-ce qu'il est possible à votre... Oui, vous le faites, donc c'est possible de faire quelque chose. Mais,
ah, c'est possible.
Dans un délai... est-ce que vous envisagez, à vue d'homme, un redressement, une résurrection ?
Par exemple, là, donc d'abord, on a cette école. Bon, déjà, cette école, tout le monde me disait, bon, c'est une école avec une scolarité. Bon, pourquoi ? Parce que on peut pas trouver de l'argent indéfiniment. On a trouvé de l'argent pour démarrer, mais après, moi, je peux pas trouver assez d'argent. Donc, il y a une scolarité qui fait tourner et tout va. Bon, la première année, on a eu 25 enfants. La deuxième année, 52. Et là, on est à 120 déjà. Donc, ça veut dire que, alors que tout le monde nous avait dit, vous aurez jamais d'élèves, si, on les a trouvés. Et ces enfants-là vont travailler de 9h du matin à 5h du soir. Je veux dire, un système scolaire normal. Après, le directeur du musée, là, vient d'être changé. C'est un tout nouveau directeur du musée, qui a 30 ans, qui vient d'être nommé, là, il y a un mois. Et ce jeune homme, lui, a commencé par demander la démission des 120 personnes. Et ils ont donné leur démission. Donc, si vous voulez, non, ces forces vives arrivent et petit à petit, ils arriveront à bouger quelque chose. Ces internats, l'actuel ministre de l'Éducation, par une chance ou par une grâce de la Providence, en tout cas, ce ministre, je le connaissais très bien parce qu'il est d'un village où les Murat avaient une maison. Et donc, c'est un homme très tout jeune, 32 ans. Et qui était très respectueux vis-à-vis de la famille. Quand il a été ministre de l'Éducation, je suis allée le voir, lui disant, écoutez, je vais t'aider. Non, là, vraiment, je peux t'aider. Et du coup, c'est moi qui m'occupe de tous ces internats. Et là, ça commence à changer. Parce que l'ONU est en train de réaménager les bâtiments, enfin pas l'ONU, l'UNHCR, est en train d'aider. Et puis surtout, on va enlever les enfants. Je veux dire, mais tout ça, ça va nous prendre 6 mois. Mais croyez-moi, en septembre prochain, il y a déjà un internat qui sera à peu près correct. Bon, après, il faut laisser le temps, mais on y arrivera. Ah non, je suis sûr qu'on y arrivera.
Alors, avant de vous poser la question de la façon dont on peut vous aider, je voudrais que Victoria nous lise un message qu'on a eu, auquel je voudrais répondre quand même.
Vous reprochiez tout à l'heure qu'on aide les victimes du tsunami plutôt que les Français nécessiteux. Mais maintenant, vous vous extasiez sur l'aide de la princesse Murat en Géorgie. C'est incohérent.
Mais c'est pas incohérent du tout. Je veux dire pourquoi. C'est pas incohérent parce que d'abord, la différence première entre ce qui s'est passé en Asie et ce qui se passe en Géorgie, c'est que en Asie, c'était un pays de tourisme. Il n'y a pas beaucoup de touristes en Géorgie, pourtant que je sache, je peux me tromper.
Non.
Il n'y a pas beaucoup, c'est la première chose. Donc, l'argent vient moins facilement. La deuxième raison, c'est que le tsunami, comme vous dites, ça a provoqué une véritable hystérie. Ça a provoqué une hystérie qui est dramatique dans ses effets, parce que elle a littéralement asséché les sources de dons en France, au point que il vient d'y avoir là récemment une quête pour une œuvre de bienfaisance particulière, je ne dirai pas son nom parce que je ne sais pas si j'ai le droit de parler de ça, mais la rentabilité, si j'ose dire, de la quête est en baisse de 85% par rapport à l'année dernière. Parce que les gens ont donné au moment du tsunami. Ils ont donné tellement d'argent que la Croix-Rouge, que Médecins Sans Frontières, que beaucoup d'associations et d'organisations humanitaires disent « Arrêtez d'envoyer de l'argent, on n'en a plus besoin, on ne sait pas quoi en faire ». Je crois que le chiffre a été donné, je l'ai dit, je crois que la Croix-Rouge internationale a reçu autant d'argent à cette occasion-là que pendant tout le reste de son existence d'association humanitaire. Donc là, on est dans un délire total. C'est pour ça que je dis qu'il est scandaleux que en France, alors que tout ça est connu, c'est publié, les journaux l'ont dit, on continue à faire semblant de faire de la charité qui est de la charité profanée pour aider des gens qui n'en ont plus besoin. Ils le disent eux-mêmes, ils disent arrêtez de nous envoyer, on ne peut plus, on ne sait plus quoi en faire, ce qui amène des situations dramatiques dans d'autres domaines. Moi je pense à Riomont par exemple, qui a des difficultés parce que les gens ont donné, ce qui est très gentil, pour le tsunami, mais ils n'ont plus pour donner à Riomont. On voit la chose avec Raoul Folleron, on voit la chose avec les Géorgiens. Donc il est normal que nous appelions à un peu plus de bon sens et puis à une meilleure répartition des dons. Et je répète que il y a tellement d'ordures qui se sont fait un fric monstrueux en Asie du Sud-Est en construisant des hôtels qui étaient fréquentés par une clientèle essentiellement de tarés, de dégénérés, de pédomanes qui allaient là-bas pour se taper des petits garçons, donc qui ont vécu du vice le plus vicieux qui soit. Ces gens-là, s'ils veulent aider ces pays-là, ils peuvent sortir du fric. Toutes ces grandes chaînes internationales de gros hôtels de passe peuvent payer. Alors eux n'ont qu'à payer, et les gens comme nous qui n'allons pas se taper des petits garçons en Asie du Sud-Est, on peut donner de l'argent à des entreprises qui tout simplement être des enfants miséreux, même si c'est, comme le dit élégamment un auditeur, des schismatiques hérédo, je sais pas quoi.
Non, mais les grands hôtels ont des contrats d'assurance, eux.
Voilà. Eux, ils pourraient au moins faire un don.
Et puis on a quand même un argument aussi. Les Murats, c'est la France, hein. Donc,
il y a une tradition française d'aider les pays.
Mais surtout, le commandement est d'aider le prochain. Oui. Donc, le prochain, c'est quand même celui qui, d'une manière ou d'une autre,
le plus proche.
Donc, il faut le cas de la Géorgie, mais il y a un lien entre la France et la Géorgie, ce lien est devant nous, donc ça justifie.
Puisqu'on parle de ça, je vais encore dire un mot à ce propos. Il y a des jeunes à Paris qui ont monté ce qu'ils appellent la soupe aux cochons. Bon, ils distribuent de la soupe aux cochons, de la charcuterie, du pain et du vin à des sans domicile fixe, à des clochards. Bon. Ils sont traqués par la police, ils ont été arrêtés sur ordre du préfet, conduits au commissariat. On a confisqué leurs moyens de distribution et tout, parce qu'ils ont été dénoncés par les petits flics de la mairie de Paris, de monsieur Delanoë, le maire mixte, parce que le fait de donner de la soupe aux cochons aux gens, c'est une forme de racisme, parce que ça écarte les musulmans. Maintenant, je voudrais si quelqu'un est au courant d'une seule association de bienfaisance musulmane, d'une seule organisation humanitaire musulmane qui à Paris, aujourd'hui, en ce moment, distribue de la nourriture aux clochards, je vous supplie de m'appeler, je vous promets que je donnerai leur adresse et leur numéro de téléphone pour qu'on les aide financièrement. Ça n'existe pas. Vous pouvez vous présenter dans les offres de bienfaisance musulmane, ils vous envoient vous faire foutre si vous n'êtes pas de leur religion.
Moi, je précise que je suis dans la banlieue de Barbès, je n'ai jamais vu un SDF de l'extrême-Bretagne.
Voilà. Alors, il faut quand même arrêter de raconter n'importe quoi. Le fait est que nous sommes dans une situation qui est grave et qu'en plus, on nous fait des reproches qui sont totalement infondés. Et puis après tout, on a le droit de parler de ces choses-là. Si les personnes qui ne sont pas contentes ne veulent pas donner d'argent, je promets que je n'irai pas leur extorquer le fric, le flingue à la main, dans leur salon. Non, mais si vous voulez aider les enfants géorgiens qui sont proches de nous par plein de choses, et notamment par le lien particulier qu'a créé la famille Murat avec ce pays, comment peut-on faire, mon cher Vini, toi qui es un artiste de ce genre de discipline, tu peux peut-être nous expliquer rapidement.
Oui, je pense qu'il faut aller en Géorgie et aider les Géorgiens, parce que eux, c'est le coin dans l'islam. C'est avec l'Arménie, ces deux pays-là, ils sont entourés que de pays turcs, ossétiens, la Tchétchénie, n'est-ce pas? Tout ça, ça touche la Géorgie et ils n'ont été jamais islamisés.
D'ailleurs, ils ont payé un très très lourd tribut, en particulier contre l'Iran dans les débuts du christianisme. C'est le premier royaume chrétien.
Oui, oui, on peut acheter.
Alors, si tu dis qu'il faut aider notre prochain, oui, c'est les plus lointains de nos prochains, il faut y penser.
Alors, pratiquement, comment on peut faire?
Alors, pratiquement, nous étions émerveillés de l'action de la princesse. Là, on voit une Vendéenne au travail à 5000 km d'ici. Hein? Et vraiment, les choses bougent. Moi, je dirais, si vous avez 5 Vendéennes ou 21, en Géorgie, le problème est réglé. Hein? Parce que les projets qu'elle a sortis, c'est fantastique. Là, on a parlé de notre SOS Maman, hein, de sauver les bébés, de l'avortement. Elle dit, c'est ce qu'il faut faire. 4 mois plus tard, elle ouvre une maison au centre de Zoukdidi, hein, la capitale de l'Ouest. Avec l'évêque du lieu, avec le maire, tout le monde est là pour ouvrir la maison. Où est le problème? Et nous, on envoie 200 euros par mois, rien du tout. Et la maison est là, elle fonctionne. Vous voyez comment avec rien et une Vendéenne, on peut faire des merveilles à 5000 km d'ici. Un autre projet, c'est, comme dit la princesse, c'est stage. De leur apprendre des métiers manuels. Il faut que la Géorgie se mette au travail après 80 ans de communisme, de lavage de cerveau. Mais il faut savoir tapisser, il faut faire des petits pains. Et elle dit, je cherche des stages en France, 2 mois, pas plus, pour qu'ils voient quelque chose qui fonctionne. Et nos Géorgiens sont assez capables, pour après, de réaliser ça chez eux. Et elle dit, je veux pas des étudiants de droit et de poésie. Ça peut être beau, mais ce qu'on a besoin, c'est ça. Alors nous, on fait appel à ceux qui peuvent nous proposer des stages comme ça. Ouais. Et pour l'été, on pourrait facilement. J'ai déjà un hôtelier qui m'a dit, je prends. Vous voyez?
Et vous vous occupez des questions administratives, parce que naturellement, ça va créer des tas de difficultés. Il va falloir des visas, il va falloir des contrats d'apprentissage, de stage, des choses comme ça.
Ça va, vous ça se met en place, ça y est, maintenant c'est en place. Entre les deux gouvernements français, géorgien, c'est bien là maintenant.
Et puis aussi, si on n'a ni stage, ni les moyens d'aller sur place, ni les moyens de conduire des voitures pour les emmener là-bas, parce qu'il y a ça aussi, non?
Oui, on a fait 600 km là-bas. Alors là, c'est un autre projet. On a dit, bon, un de ces orphelinats, alors l'internat, comme ils l'appellent, ça nous a fait tellement pitié, j'ai dit au directeur, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Il a dit, on a besoin de tout. Tout humblement. Et j'ai dit, on n'a pas de fric, mais on pourrait peut-être faire par Radio Courtoisie, Radio Silence, un appel aux bagnoles. Qui veut donner une voiture et en fait une caravane le fin avril?
Parce que ça, l'appel a été lancé.
Voilà, la caravane est lancée, on part le 22 le soir, on arrive là-bas juste pour Pâques orthodoxe, donc on a cette magnifique fête en plus, et on a 5 bagnoles déjà, avec 10 chauffeurs, et on partira. C'est pas le Paris-Dakar, mais c'est le Paris-Zoukdidi. Voilà. Donc ça va partir.
Merci Winnie. Alors, une adresse?
Voilà. Une adresse?
L'UNEC.
L'UNEC.
Alors, écoutez, comment va pour le 1er mai là-bas? Si vous avez des dons ou des idées ou des stages à proposer ou quoi que ce soit, ou
des
Mercedes,
jouets, des vieux jouets, enfin, parce que si on donne des jouets neufs aux enfants, les directeurs le revendent. Voilà. Si c'est des vieux jouets bien usés, alors là, on peut les donner aux enfants.
Et aussi
c'est
quand même du boulot. Des chaussures d'enfants. Les enfants restent à l'école. Ils peuvent pas aller à l'école en hiver parce qu'ils ont pas de chaussures.
Tu les mettras dans les coffres des voitures, non?
Mais c'est ça, on veut remplir les voitures.
Voilà. Donc on remplira les voitures, n'est-ce pas? Comme on a fait pour l'Irak, n'est-ce pas? Et on va là-bas en caravane. Ça, c'est parti, ce projet.
Ça reste où et à qui?
Voilà.
L'UNEC, redonnez l'adresse de l'UNEC.
L'adresse de contact, oui, ça serait le plus pratique. Vous envoyez à UNEC, mais vous dites que c'est pour la Géorgie ou pour la caravane ou pour la princesse. Alors UNEC, boîte postale 70 114, c'est dans le Val d'Oise, alors 95-210 Saint-Gratien. 95-210 Saint-Gratien. Alors.
Et je termine. Un auditeur dit « Je trouve que la Géorgie est un État très antipathique, très agressif envers la Russie et l'Abkhazie, et il devient le cheval de Troie des USA dans la région. » Mais je crois qu'on peut dire, moi je ne connais pas bien la Géorgie, mais je crois qu'on peut rassurer cet auditeur, parmi les enfants dont vous vous occupez, il n'y a pas beaucoup d'agents de la CIA, si?
Non, vraiment pas du tout.
Je si pense vous pas que les agents de la CIA aient besoin de chaussures.
Je réponds juste là, donc j'ai plusieurs questions. On me demande que quelqu'un l'un ou l'autre connaisse Pauline Murat. Alors moi j'ai épousé Alain Murat qui est le 9e de 9 enfants et Pauline est une de ses sœurs. Il y a aussi Salomé, Chalandon, enfin bon, et tout ça. Donc voilà, Pauline est une des sœurs.
Alors, on vous demande, ça, je sais pas, c'est peut-être très personnel, je vous pose la question sans savoir, si vous avez des nouvelles de Georges Pankissi.
Pas
ça,
du tout.
Ça ne vous dit rien.
Non.
Là, c'est peut-être quelqu'un qui prétend qu'il est en Géorgie alors qu'il est ailleurs.
La gorge de Pankissi.
Ah, sous les gorges de Pankissi. Moi, je lis Georges Pankissi. Alors,
Oui, c'est Georges, c'est la vallée, la gorge de Pankissi. Alors, c'est une gorge, c'est une vallée qui est en effet très encaissée.
Pardon, il est bien écrit Georges Pankissi. Je ne suis pas totalement.
Non, mais c'est ça qui est drôle quand même.
Et donc, dans cette gorge de Pankissi, en effet, c'est près de la Tchétchénie et c'est l'endroit où il y a des réfugiés tchétchènes. Et il y en a une centaine de familles et l'Arabie Saoudite a envoyé de l'argent pour construire des mosquées. Alors voyez la tête des Géorgiens, c'était quelque chose de terrible. Mais ceci dit, c'est quand même des populations très très pauvres là aussi. Et du travail, encore là.
Alter, je vous remercie. J'espère que cet entretien sera fructueux et que vous pourrez emporter des tas de voitures, des tas de chaussures, des tas de jouets usés.
Oui.
Et quelques chèques aussi aux enfants de Géorgie qui sont des enfants avant d'être des agents de la CIA ou du communisme international. Et dont on espère qu'au moins, eux, ils aimeront la France.
Voilà.
Contrairement à beaucoup de jeunes qui vivent en France et qui ne sont pas dans les mêmes idées.
Un nouveau merci titre beaucoup pour vous, la princesse espoir.
Merci beaucoup à vous tous, en tout cas, parce que vous savez parler de là-bas, me tient très à cœur. Et à chaque fois, il y a des retombées, on ne sait jamais quoi, mais
bien,
voilà.
Merci
beaucoup.
On espère que ça marchera bien. Alors, j'avais une... Oui, je dois saluer l'élégance de Philippe de Saint-Robert. Ah oui, là je suis obligé, parce qu'il vient d'envoyer un message.
J'ai peur.
À Serge Beckett, le terme de bulletin paroissial n'avait dans mon esprit rien de péjoratif. Ou bien je suis un très mauvais catholique, j'écris moi-même parfois dans de nombreuses feuilles confidentielles et j'en édite même une. De plus, je n'en désignais aucune en particulier et n'avais pas la vôtre à l'esprit. Désolé de vous avoir peiné, bien à vous, signé Philippe de Saint-Robert.
Oh, ben alors.
Ah, donc, voyez, comme quoi on peut être gaulliste et savoir vivre quand même. Hein.
Oui, hein, ça vient sur le tard quand même.
Merci Philippe de Saint-Robert, je suis touché et je vous réciproque mes excuses pour le ton un peu persifleur que j'ai pris tout à l'heure et qui était la preuve déplacée, voilà, je le dis. Qu'est-ce que je voulais dire? Il y avait une chose qui... Ah oui, il y a une chose très amusante puisqu'il me reste deux minutes avant de donner avant de changer le... la cassette, c'est ça qu'on disait dans le temps. Il y a un élu communiste qui avait envoyé ses vœux. Il est Claude Pinon, ancien secrétaire départemental du Parti communiste de Côte d'Or, devenu maire adjoint communiste de Dijon. Et comment on peut encore avoir des gens comme ça? Mais c'est pas croyable. Et vice-président du conseil régional de Bourgogne. Vous vous rendez compte, un communiste, bah, bref. Alors il avait envoyé ses vœux à tous les, naturellement aux frais de la princesse. Vous pensez bien que c'est pas lui qui paye les timbres.
C'est pas vous qui avez payé.
Et alors, non, pas la princesse Murat. Et alors, il a été tellement généreux avec les timbres du conseil régional que les membres du Front National, les élus du Front National ont reçu les vœux du communiste.
Alors,
ils se sont mariés. Alors, il leur a envoyé une lettre derrière, toujours aux frais d'ailleurs des mêmes. Une fâcheuse erreur administrative vous a fait destinataire de mes vœux. Comment pourrais-je souhaiter quoi que ce soit à des membres d'un parti raciste, xénophobe et antisocial? En 6 années de mandature, je n'ai jamais dit bonjour et encore moins serré la main à l'un d'entre vous et je m'en enorgueillis. Alors, il devrait éviter les mots comme ça parce qu'il fait 4 fautes d'orthographe dans le seul mot. Et alors, Édouard Ferrand lui répond: Vos propos confirment, si besoin était, j'en suis bien aise, que vous faites partie de ceux qui savent comment réagir face à l'exaltation par corneille du sentiment patriotique. La grandeur les incommode, voilà la vérité. Ils ne peuvent plus supporter la grandeur. Elle est un reproche permanent à leur bassesse, l'héroïsme, le patriotisme, les règles de la morale, de leur propre morale. Tous les beaux sentiments leur sont odieux. Ces propos, comme vous pourrez le vérifier, sont de Guy Leclerc dans l'Humanité du 9 février 1952. Et là-dessus, il lui présente ses meilleurs vœux. Très bien. Si les livres scolaires vous intéressent, est-ce que les livres scolaires vous intéressent?
Oui.
Alors voilà, la réponse. Donc si vous avez des livres scolaires, vous pouvez aussi les faire parvenir à l'UNEC. Et coupure technique. Voilà. Eh bien, nous commençons cette deuxième partie d'émission par le rituel désormais obligatoire. Si vous avez envie de devenir webmaster flash ou infographiste pour lutter efficacement contre, en faveur du non à la Constitution européenne, vous écrivez un courriel à euro2005@hotmail.fr. Et là, vous apprendrez à faire plein de choses. Ça s'adresse naturellement aux jeunes gens, voire même aux jeunes filles, voire même, j'aime beaucoup l'expression, voire même, elle est élégante. Hein. Voilà, si vous êtes webmaster, webmistress, alors il faudrait dire flash, voire infographiste, on dit maintenant, n'hésitez pas, on accepte les femmes. Enfin, moi, j'accepte rien, parce que je ne m'en occupe pas, mais les gens qui s'en occupent, oui. Messieurs, bonsoir. Bonsoir, Dominique Tassot. Bonsoir, monsieur Guy Prival.
Bonsoir.
Alors, on va parler de trois choses, les activités, enfin le CEP. Je vais vous demander, comme à chaque fois, de nous dire rapidement ce que c'est, oui. Parce que bis repetita placenta. Ensuite, du dernier numéro de la revue qui vient de paraître, et qui est passionnante comme d'habitude, avec de très jolis papiers, et notamment un document tout à fait passionnant et qu'il faut absolument lire. Et c'est la confession Frankowski, qui est vraiment essentielle. Il y a quelque chose d'énorme là dans ce numéro-là proprement. Et puis ensuite, la journée du CEP consacrée à l'enseignement. Donc le CEP...
Oui, le CEP, ça veut dire Centre d'études et de prospectives sur la science. Et sur la science, mais science étant au singulier justement pour englober très largement toutes les disciplines et toutes les formes de connaissances, y compris l'histoire. Et c'est pourquoi nous avons évidemment dans la revue une rubrique histoire. Et la particularité du CEP, c'est d'avoir sur la science et la connaissance, je dirais, le recul que permet la vision biblique du monde. Donc au lieu de se contenter de lire, je dirais, Science et Vie ou les journaux de ce genre, eh bien, nous essayons, nous, de donner une certaine profondeur et grâce à ce recul, une approche critique de la science. Ah, c'est ça la grande différence, si vous voulez. Il y a encore une vache sacrée au XXIe siècle, c'est la science. Vous avez encore un argument d'autorité qui porte, qui est un petit peu ébréché, alors il faut quand même le dire, mais c'est la science. Donc quand les politiques veulent se couvrir, eh bien, ils nomment un comité scientifique. Bon, quand on veut faire passer quelque chose, on appelle un prix Nobel et on lui dit...
Mais évidemment, on sait ce que donne un comité, vous savez, un comité... C'est quelque chose quand on lui demande de dessiner
un
cheval, il fabrique un dromadaire, c'est
oui,
ça
c'est hein. Ça, oui, non, c'est le contraire. Mais enfin, donc il y a, si vous voulez, dans les sociétés modernes, un fonctionnement de la science qui avait d'ailleurs été très bien vu par Auguste Comte. Auguste Comte, vous savez, il disait c'est la science va remplacer la religion, oui, et les prêtres de la société future seront les savants. Alors il l'avait vu, mais il ne voyait pas très bien comment ça allait se réaliser. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, nous voyons comment, effectivement, ça se réalise, peut-être pas sous la forme qu'il avait imaginée, mais sous cette forme qu'il y a dans nos sociétés un argument d'autorité qui fonctionne, et c'est l'argument de la science. Alors, en se glissant dans la science, alors ça n'a absolument rien à voir avec la science authentique, qui commence par l'admiration et qui s'occupe de la vérité des choses. Oui. Là, on a la recherche de la vérité est complètement absente de cet usage politique de la science. Mais Auguste Comte avait quand même bien vu que la démocratie moderne avait besoin de cette autorité religion. De la science pour fonctionner. Parce qu'il faut une religion pour le peuple.
Oui, c'est ça. Et maintenant, c'est la religion laïque soutenue par la science. C'est une très belle réussite. Vous savez, il y a un moyen quand même assez... Moi, je pose toujours la question. On n'a jamais donné de réponse, je vais la poser là à ce micro si vous me donnez une seconde. La science, c'est quand même la raison pure, on est bien d'accord. C'est l'expression de la raison mathématique, par exemple. Alors, en géométrie, il y a une chose qui m'a toujours étonné, c'est la question du carré de l'hypoténuse. Parce que vous savez que le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Oui. Donc si on prend un carré de 1 cm ou de 1 mètre ou de 1 km de côté, 1 multiplié par 1 ça fait 1, plus 1 multiplié par 1 ça fait 2, donc la somme des carrés des deux côtés c'est 2, on est bien d'accord. Ok. Et l'hypoténuse, donc la longueur de l'hypoténuse, c'est racine de 2. Or, tout le monde peut voir, en regardant un triangle rectangle, qu'une hypoténuse, ça commence au point A et ça finit au point B.
Oui.
C'est donc c'est une ligne finie, c'est une grandeur finie. Mm-hmm. Alors, je voudrais qu'on m'explique comment le carré d'une grandeur finie peut être un nombre infini, parce que le carré de 2, c'est infini. Même chose pour le rayon du cercle. Le rapport entre le rayon du cercle et la circonférence, qui est une longueur finie, le rayon du cercle étant aussi une longueur finie, c'est pi. Non, c'est pas la peine, ça m'étonne pas que vous compreniez pas, Victoria. Vous n'êtes qu'une femme, après tout.
Je flotte. Oh, oui, vous avez raison.
Bon.
On a déjà perdu 50 000.
Un cercle déroulé, c'est une ligne droite. Elle a un début et une fin, donc c'est une longueur finie. Le rayon qui va de la circonférence au centre, c'est une longueur finie.
Oui.
Vous êtes bien d'accord?
Oui, je suis d'accord. Ouais.
Le rapport, c'est pi.
Oui.
Pi, c'est 3, suivi. Alors, il y a un japonais qui vient de terminer un petit travail, là. Il est arrivé à la 1245 milliardième
décimale
après la virgule. 1245 milliards de chiffres après la virgule. À mon avis, on peut, sans trop s'avancer, imaginer qu'il s'agit d'un nombre irrationnel. Alors, je voudrais savoir comment deux dimensions rationnelles, qui sont 1 dans le cadre d'un carré de 1 de côté, enfin un chiffre rationnel peut avoir comme lien avec un autre chiffre rationnel une dimension qui est irrationnelle. C'est tout.
Et ça, bon, ça a beaucoup évidemment perturbé les Grecs.
Oui, ben je sais, ça fait un moment.
Quadrature du cercle.
Mais apparemment, ça perturbe encore beaucoup d'autres gens, parce que personne n'a été capable de me dire clairement, oui, ben voilà, c'est à cause de ça.
Non, ce qu'il faut voir, c'est que d'une certaine façon, il y a un déficit de connaissance vis-à-vis de tout objet. Et c'est ça qui a été loupé, si vous voulez, au début de la science moderne. C'est qu'on a cru pouvoir balancer sur la connaissance des choses la certitude que l'on avait dans la connaissance des êtres mathématiques. Alors il y a une grande différence entre ce dont nous s'occupe la science et les êtres mathématiques, c'est que l'être mathématique s'épuise dans la définition qu'on en donne. C'est-à-dire qu'on le connaît parfaitement. Comment on le connaît parfaitement? On peut raisonner parfaitement dessus. Tandis qu'en ce qui concerne les êtres vivants, les minéraux, les objets de la physique, effectivement, il y a toujours une insuffisance.
Sur l'être mathématique, on peut peut-être raisonner parfaitement, mais sur l'être géométrique, on peut pas, parce que là, ça se heurte à une réalité intangible, enfin, inchangeable. C'est que le rapport est irrationnel. Or, personne ne peut vous expliquer ça. Personne, absolument. J'ai jamais trouvé un matheux qui soit capable de me dire, attendez, mais c'est très simple, vous n'avez rien compris au film, c'est tellement simple. C'est tout.
Bah, c'est quand même simplifié avec la notion de nombre réel.
Parce que vous collez un nom là-dessus, vous appelez ça nombre réel.
Mais non,
nombre irrationnel, ça change rien à la réalité.
Mais je pense que là, on va ennuyer les lecteurs.
Je pose simplement une question, je pose aux lecteurs cette question. S'il y a un matheux ou un géomètre parmi nos auditeurs, pas nos lecteurs, mais nos auditeurs, et qui m'apporte la réponse, je serai l'homme le plus heureux de la Terre. Parce que j'aurais évacué l'hypothèse Dieu. Mais pour l'instant, ça marche pas. Voilà. Alors donc, on a vu un peu ce qu'était le CEP. Maintenant, la revue, qu'est-ce que vous proposez dans cette revue?
Donc la revue, évidemment, c'est une revue trimestrielle. Donc il y a quelque chose de nouveau tous les trimestres. Bon, dans ce numéro, c'est compliqué de passer en vue. Devant des auditeurs qui de toute façon n'ont pas
l'idée en gros c'est quand même de les inciter à le demander.
Les inviter à se procurer. Non, ce qu'on peut dire c'est qu'on a une rubrique science et là je soulignerai à mon avis un article très intéressant du professeur Hubert Saget. Hein, qui est un biologiste mais un philosophe en même temps et qui montre bien justement l'impossibilité d'une vie issue du hasard. Et il le fait avec des arguments très parlants, en plus très bien écrits, si vous voulez, parce qu'il y a quelques scientifiques qui écrivent bien et enfin c'est quand même, on peut les saluer au passage. On a quand même aussi redonné alors un article de Jacques Benveniste. Alors, vous savez, c'est quelqu'un oui. Autour duquel il y a eu toute une polémique à cause de la mémoire de l'eau. Autrement dit, un article de Benveniste, directeur de recherche à l'INSERM, donc quelqu'un de la science installée. Hein, c'est pas un chercheur qui évidemment trouve quelque chose dans sa cave, mais qui a du mal après à faire connaître. Non, c'était vraiment un chercheur installé. D'ailleurs, moi, je suis allé dans son laboratoire de l'INSERM à côté de Paris. Il avait encore tous les attributs, si vous voulez, de la science officielle. Et il avait publié dans Nature, qui est quand même une revue à comité de lecture, donc ce fameux article sur la mémoire de l'eau. Mais comme il touchait un ensemble à la fois idéologique et industriel délicat. Eh bien, il y a eu une polémique absolument fantastique.
Qui l'a tué d'ailleurs.
Oui, donc.
Donc il est mort, vraiment, on peut le dire.
Mais évidemment, il n'avait pas, d'où les motivations spirituelles qui aideraient.
Il a été littéralement détruit par, pas seulement la polémique, mais par le torrent d'injures qui s'est déversé sur lui. Alors que c'était.
Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, il est mort à cause de l'insuffisance de la science. C'est parce qu'il mettait en évidence un phénomène qu'on ne sait pas, ou qu'on ne savait pas expliquer.
Ce qui est frappant, c'est que dans ces débats, chaque fois qu'il y a un problème de cet ordre qui se pose, l'argument de l'adversaire, de l'ennemi, mais de l'adversaire avec un majuscule, c'est l'injure, c'est la grossièreté, c'est le mépris, le ricanement satanique, etc. Et là, j'ai un assez bel exemple, parce qu'il y a un auditeur qui, le crétin de service, qu'on connaît bien d'ailleurs, qui dit, la question que je posais tout à l'heure, il dit, c'est l'inconvénient d'avoir fait des études par correspondance en période de grève des postes. C'est drôle. Seulement, ce qu'il faudrait, moi je préférais qu'il perde son temps plutôt qu'à écrire des conneries, à me dire, voilà la réponse à la question que vous posez. Voilà la réponse. Eh bien, il n'est pas capable. Donc, l'argument de l'ennemi, et dans l'affaire Benveniste, toute proportion gardée, c'était ça. L'argument de l'ennemi, c'était comment on ne peut pas discréditer le propos, on va discréditer le bonhomme. Et il en est mort.
Oui, alors évidemment, il a écrit une lettre ouverte à Science et Avenir, là, il y a quelques années, que j'ai reproduit parce que ça, c'était... à la fois une approche critique de la science, et en même temps, il faisait des propositions pour justement ne plus en rester là.
Mais surtout pas, il ne faut surtout pas expliquer. Et ce n'est pas le seul domaine dans lequel le débat est interdit. En science, la science est fondée sur l'interdiction du débat. Et vous, avec le CEP, c'est exactement ce que vous faites. Vous violez ce tabou en permanence. Alors, le CEP est protégé par votre... parce que vous êtes, vous, Dominique Tassot, en tant que technicien
ingénieur des mines.
Ingénieur des mines, pardon. Oui, enfin, ingénieur des mines, c'est un petit peu mieux. C'est un polytechnicien qui travaille. Donc, vous protégez par votre autorité morale, en quelque sorte, le système. Mais dès que quelqu'un qui n'a pas cette autorité morale, qui est fondée sur une connaissance pratique et scientifique, se mêle de ce genre de sujet, il est flingué à bout portant.
Ah oui, ça c'était extrêmement, voilà. Ça c'est un gros problème d'autorité à l'intérieur de la science. Il y a le problème de l'autorité de la science vis-à-vis de la société, autorité abusive, et puis il y a le problème de l'exercice de l'autorité à l'intérieur de la communauté, qui est, autant je dirais, par exemple dans l'église, on a une société qui a été vraiment bien pensée, où le fonctionnement de l'autorité suit des règles.
Et d'ailleurs on voit que chaque fois que cette règle est violée, le truc ça casse.
Ça ne marche plus. Aujourd'hui c'est
vous parlez vous publiez la confession de Rakowski, en deux mots, expliquez ce que c'est.
Rakowski, c'est un personnage étrange, et si vous regardez le dictionnaire historique de Moore, c'est un très gros dictionnaire, il y a une notice, etc. Il y a une notice, Rakowski, et effectivement, on ne mentionne pas la date de sa mort.
Parce qu'on ne la connaît pas.
On ne la connaît pas. On sait, évidemment, qu'il était dans un de ces grands procès staliniens, dont il est question, évidemment, dans le texte que je rapporte. Mais la date de sa mort n'est pas connue, parce qu'il a été gracié. Il a été gracié, il a disparu du paysage. Mais alors, on a tous les éléments, évidemment, dans ce texte, pour comprendre qu'il a servi à piloter ce basculement tout à fait étonnant de la diplomatie soviétique qui a abouti au pacte Molotov-Ribbentrop, et évidemment c'est ce qui est expliqué dans ce numéro,
c'est très bien expliqué.
D'une manière
sur la jeunesse
prodigieusement limpide, à la fois et extrêmement subtile en même temps. Donc je veux dire, c'est un
lire absolument, ce chapitre-là est à lire absolument, parce qu'il y a une explication de l'inflammation du paysage mondial à partir de 1935, qui est totalement lumineuse.
Et ce qui est tout à fait étonnant, bon, j'ai quelques lecteurs qui m'ont dit, mais vous poussez, enfin, Rakowski pousse le bouchon trop loin, etc., c'est forcément un faux, etc. Très grand nombre de lecteurs qui sont passionnés par ce feuilleton, si on peut dire, et je dirais que plus ce sont des gens versés en histoire, plus ils ont étudié les choses, plus les aperçus de Rakowski
leur paraissent lumineux.
Et
vous dites qu'il a disparu. En fait, moi, je sais ce qui lui est arrivé. Il a été renvoyé à une fois qu'il a été gracié, on l'a renvoyé à sa famille. Mais simplement, ils l'ont envoyé en plusieurs colis. Quoi. Mm-hmm. Voilà. Le colloque sur l'enseignement.
On peut quand même dire que cette revue...
Ah oui, pardon, cette revue, on peut la lire.
On peut l'acheter dans des librairies parisiennes, par exemple. Oui, la librairie Gaîtier à Notre-Dame-d'Auteuil, la librairie France Livre rue du Petit Pont, la librairie Duquesne Diffusion, la librairie La Licorne Bleue, enfin, pour les Parisiens et les gens de l'Île-de-France. Mais on peut aussi s'abonner. Alors nous avons des abonnés dans le monde entier. Ça coûte pour la France 23 euros, 28 euros pour l'étranger, et la livraison est donc trimestrielle. Nous avons encore tous les anciens numéros disponibles. On peut les acquérir individuellement au prix de 6 euros, franco, et on peut aussi en avoir une collection plus ou moins complète. On m'achète très souvent des collections complètes à un prix étudié en fonction de la quantité. Ce prix n'a pas varié depuis 7 ans.
Justement, dépêchez-vous de vous abonner parce que avec les nouveautés de la Poste, on va être obligé d'augmenter l'abonnement cette année. Alors depuis 7 ans, c'était resté inchangé, parce qu'on considérait que la croissance des abonnés suffisait à accompagner les coûts, mais ça ne va plus être possible.
Nous faisons des efforts du côté de la fabrication pour améliorer la qualité sans augmenter le prix, mais pour la Poste, là, on ne peut plus lutter. Alors j'ajoute encore que dans les numéros, vous avez un index des articles par thème, c'est-à-dire que c'est classé par thème, datation, église, bible, histoire, linguistique, etc. Vous trouvez toutes les sciences et vous pouvez savoir quel article a été traité sur quelle livraison et nous la commander. Voilà pour la revue. Je dis l'adresse du secrétariat, c'est CEP, CEP, 4 rue de Beauvais, comme la ville, 91410 à Saint-Cyr sous Dourdan. Le téléphone, qui est également fax, 01 60 81 22 27 24. Je répète, 01 60 81 27 24. J'ai également beaucoup de correspondants par le courrier électronique. Alors l'adresse est très simple, cep@wanadoo.fr. S comme secrétariat.cep.
S.cep@wanadoo.fr.
Voilà pour la revue.
Merci. Alors, le programme, on n'a plus beaucoup de temps malheureusement, parce qu'on s'est un petit peu attardé avec la princesse Murat, mais c'était un voyage en Géorgie bien agréable. Le programme qui est très alléchant de votre colloque sur l'enseignement, d'abord le thème général.
Très rapidement, pourquoi le vide à l'école ? Pourquoi, vous savez, il y a Solvay et Coagula, donc il faut, dans une première phase, il faut déblayer. Et aujourd'hui, on a manifestement le vide dans l'enseignement, en ce sens que les choses importantes ne sont pas enseignées. Et puis par contre, on a les têtes bien pleines, bourrées de connaissances qui ne sont pas forcément très importantes pour la vie que l'on doit mener par la suite. Alors, le but de cette journée, bien, c'est d'avoir réuni quatre conférenciers qui vont justement à la fois montrer à quel point c'est vrai, malheureusement. Alors, on a en premier le docteur Nguyen qui va parler justement de la manière dont la musique sert pour la déstructuration mentale, parce qu'évidemment, pour empêcher les gens, pour empêcher le véritable enseignement, il faut, si possible, détruire l'outil d'apprentissage. Donc, déstructuration mentale et la musique y contribuent. Et puis, nous avons demandé à Jeanne Smith, qui est à présent, Alain Sanders, qui depuis très longtemps maintenant fait une chronique tout à fait intéressante, Génération des cervelets. Donc, nous l'avons demandé justement de nous expliquer en une heure, évidemment, comment on a eu ces pédagogies pour des cervelets. C'est-à-dire le fait que toutes ces réformes ne sont pas liées du hasard. Il n'y a pas de hasard. Il y a une finalité. Il y a une idée derrière le fait. Et évidemment, cette idée, c'est de déstructurer l'enseignement. Mais il ne fallait pas évidemment rester sur une note négative. Et nous avons l'après-midi, évidemment, deux conférences positives. L'une par Pierre Perrier. Alors Pierre Perrier, c'est un membre correspondant de l'Académie des sciences. Alors, il a été longtemps directeur de recherche chez Dassault, c'est donc un physicien. mais en même temps, il s'est passionné pour le Proche-Orient et en particulier la tradition orale chaldéenne. Il a beaucoup étudié les textes chaldéens, donc c'est un érudit dans ce domaine. Et donc, il a étudié les modes de transmission dans les civilisations orales, un petit peu dans la ligne du Père Jousse, pour ceux que ce nom pourrait dire quelque chose. Et donc, il va nous restituer, nous, comment Jésus voyait la pédagogie de la catéchèse. Justement, autrement dit, quelles sont les méthodes d'enseignement qui étaient à l'époque en usage, qui le sont toujours dans les civilisations de tradition orale, comme les Indiens d'Amérique du Nord ou certains peuples du Proche-Orient, et comment nous pourrions nous inspirer, justement, de ces traditions millénaires. Et puis, pour terminer, le professeur François Balançon, qui enseigne à Paris 2 la philosophie du droit, parlera de tête bien faite et pleine main pleine. Alors, je ne sais pas ce qu'il va dire, mais je suis sûr, compte tenu de la qualité de d'enseignant qu'il a toujours manifesté et des conférences qu'il nous a données jusqu'à maintenant, que certainement ceux qui sortiront de ces conférences auront la tête bien pleine, mais revigorée. Et donc, je suis sûr de l'intérêt.
Alors, ça se passe où?
Ça se passe en rue de Sèvres. Rue de Sèvres, au 78A, c'est donc à Paris. Ça, c'est sur inscription. Et je conseille vivement aux personnes intéressées de s'inscrire parce que l'année dernière, nous étions un peu juste en place. C'est le 19 février qui est un samedi. C'est le premier samedi de carême, juste après le mercredi des cendres. Ça dure du matin 9h30, heure de la première conférence, à 17h15.
Qu'est-ce que vous nous dites là, le premier mercredi décembre, c'est le 9?
Non, j'ai dit c'est le samedi après le mercredi décembre.
Après. Non, c'est après, oui, c'est pas...
Mercredi décembre, c'est le 9.
Oui, donc c'est 10 jours après.
10 jours après. 10 jours après.
Oui. C'est le premier samedi des vacances voilà. Pour Paris.
C'est le premier samedi des vacances.
Pour ceux qui ont des enfants.
Donc, j'ai donné l'adresse tout à l'heure, je la redonne tout de suite. Oui. C'est la même pour s'inscrire au colloque. Je n'ai pas dit le prix... Mais c'est 21 €, auxquels on peut ajouter 13 € si l'on veut prendre le déjeuner sur place. Et donc, il est très intéressant, très important de se réserver avant le 11 février. Donc, 13 € pour le déjeuner, 21 € pour la journée. L'adresse CEP, 4 rue de Beauvais, comme la ville, 91 410 à Saint-Cyr sous Dourdan. Courriel s.cep@wanadoo.fr.
Merci beaucoup. Eh ben, au 19, on ira écouter ces conférences passionnantes. Merci Dominique Tasso. Oui, merci Monsieur Prival.
Non, mais merci Serge pour nous inviter.
Alors, je recommande vraiment la lecture du CEP, qui est une revue tout à fait remarquable.
Un auditeur demande si vous pouvez préciser le numéro de votre dernière livraison, parce que c'est plus facile pour les commandes.
Ah oui, c'est le numéro 30. Effectivement, oui.
Voilà. Et puis alors, je suis content parce que j'ai plusieurs réponses à ma question. Alors, la première réponse, c'est notre ami Jalon qui est toujours avec son talent. Il dit « Bonjour à tous, je sais, c'est comme le gruyère. Plus il y a de gruyère, plus il y a de trous, mais plus il y a de trous, moins il y a de gruyère. » C'est la réponse. Voilà. c'est pas bête du tout.
Bon. C'est un problème de
ça, c'est, oui. Donc ça, c'était la réponse, une réponse. Et une autre réponse que je trouve admirable, et c'est un professeur de mathématiques. Contrairement à ce que vous pensez, racine de nœud n'est pas infinie. Il y a par contre un nombre infini de décimales, ce qui n'est pas du tout la même chose.
C'est très bien.
Oui, très bien. C'est la réponse exacte.
Oui, d'accord. Mais ça change quoi?
Ça ne fait pas
disparaître. Un nombre qui a un nombre infini de décimales et qui n'est pas un nombre infini, il faudra qu'on m'explique comment ça marche.
Moi, c'est le mystère des mathématiques, justement.
Ah ben voilà.
C'est plusieurs sortes d'infini, même.
Donc, on colle les trempilles mystère et tout le monde a compris. Il n'y a plus de mystère. Donc, voilà. Et puis, il y a un professeur qui me dit « Je veux bien vous donner des cours de mathématiques. Je suis au chômage. Quand vous voulez. » En une heure, je peux vous expliquer plein de choses. Et il me donne son téléphone et je vais l'appeler. Parce que s'il est capable de m'expliquer en une heure ce mystère-là, je l'invite à la radio, on va faire un cours de mathématiques spécial à l'usage des auditeurs. Voilà.
Courage, Fillon.
Bon, alors on va arrêter les maths peut-être. Il n'y a pas une rubrique mathématique dans ton livre, Alain. C'est dommage, ils ne font pas de maths, les Américains.
Non, je suis réfractaire depuis tout petit.
Alors, Alain Sanders a écrit un livre, ça c'est pas une nouveauté, mais c'est un dictionnaire sentimental du Nouveau Monde. Alors, j'ai dit tout à l'heure qu'on était d'accord sur tout, sauf sur certains détails, mais je dois dire que là, je suis obligé de saluer d'abord ton caractère provocateur, qui ne change pas, c'est-à-dire qu'au moment où en France tout le monde est anti-américain à 2000%, tu sors, si bien que moi qui ne suis qu'à 27%, je passe pour un fanatique pro-américain, tu sors un bouquin de 547 pages dans lequel tu expliques en combien de rubriques
150
rubriques 160. Qui vont de A comme
Alamo
à Z comme Zydeco, alors là il faudrait que tu m'expliques.
Non, pas disons comme Zippo alors.
Zippo, voilà, comme Zippo, qui explique toutes les raisons que tu as d'aimer les États-Unis. Et alors ce qu'on voit...
Le Nouveau Monde. Hein.
L'Amérique, oui, le Nouveau Monde. Ce qu'on découvre en lisant ce livre, c'est qu'au fond... Ce que tu aimes, c'est ton Amérique à toi, c'est-à-dire celle que tu t'es fabriquée avec tes lectures, tes films, tes musiques, ton imagination.
Oui, mais pas seulement, parce que contrairement à ce que croient les gens me disent souvent ça. Je leur dis, allez aux États-Unis, n'allez pas à New York, n'allez pas à Los Angeles, n'allez pas à Baltimore, n'allez pas à Boston. Aller à Lafayette, aller à Nashville, aller à Saint-Louis, aller à Clovis. Aller dans ces villes des États-Unis et vous verrez que...
Moi, il y a un endroit où je voudrais aller, c'est Boise, Boisé.
Boisé, oui, Boisé, bien sûr. Oui,
le nom de cette ville est tellement magnifique.
Bien sûr. Eh bien, tu touches là un des intérêts de ce pays-là, c'est de partir à la recherche derrière les noms d'une Amérique qui a été française et qui reste profondément marquée. Parce qu'on dit souvent les Américains, ce sont des Européens, en grande majorité encore.
De moins en moins, quand même.
Plus en plus.
Ah bon ?
À moins que tu considères que les hispaniques ne sont pas des...
Ah oui, je n'en pas... Oui, d'accord. Bon.
Ce sont au moins des catholiques. Donc oui. Ça, c'est un bon, bon reboisement.
Ouais. Est-ce que c'est pas ça qui va faire changer complètement les États-Unis tout autour ?
Non.
Les catholiques, les papistes commencent à...
Ça ne changera pas, parce que les papistes, comme tu dis, ont toujours été très bien implantés, contrairement à ce qu'on croit. Et les grandes écoles, beaucoup d'universités sont catholiques, et c'est là que même des méthodistes ou des baptistes, qui ont eux aussi de très bonnes écoles, et qui sont plus nombreux, envoient parfois leurs enfants. Et il y a un vrai lobby catholique.
Et cette Amérique que tu aimes, c'est quand même... C'est l'Amérique de John Wayne, c'est l'Amérique du Zippo, c'est l'Amérique du Colt, c'est l'Amérique des grands paysages. C'est l'Amérique de notre enfance, oui, de nos bandes dessinées.
J'ai coutume de dire que l'Amérique, c'est un rêve d'enfant réalisé à l'âge mûr. C'est-à-dire que quand on va pour la première fois aux États-Unis, qu'on a été nourri... Ou au Québec, ou au Canada, hein, où la geste pionnière est singulière et comparable, et parfois plus héroïque même que la conquête de l'Ouest, que l'on a beaucoup plus magnifiée. Quand on y arrive, on se dit, je suis dans le film. Mais ça n'est pas un film, c'est comme ça. Et c'est ce côté-là, c'est partir à la découverte, c'est s'arrêter au hasard des routes dans un petit motel que tu as vu 100 fois dans un Humphrey Bogart, tu sais que c'est là qu'il s'est arrêté, tu vas continuer sur la route 66 et tu sais que c'est à cet endroit-là que Bonnie and Clyde, bien que la route 66 n'ait pas existé à leur époque, mais à la traverse de cet endroit-là, ils ont couché pour la dernière fois avant d'être capturés, tu te dis, c'est du cinéma ? Non, c'est la vérité. Et c'est cette espèce de... C'est pour ça que ça s'appelle un dictionnaire sentimental. C'est pas un dictionnaire savant, oui, c'est pas un dictionnaire...
Encore que c'est un dictionnaire, pas savant, mais extrêmement érudit, parce que quand on le parcourt, on voit que tu possèdes ce pays, si tant est qu'on puisse le posséder complètement, dans toutes ses nuances.
Oui, mais j'insiste, hein, c'est le Nouveau Monde, parce qu'il y a notamment beaucoup d'entrées sur le Québec, et notamment sur les Sœurs Grises, l'admirable Sœur Grise, sur Marie Guyard de l'Incarnation, sur Henri Charlier, qui a fait c'est quand même le superbe oratoire de Saint-Joseph à Montréal. Il y a des choses qui sont qui sortent du cliché habituel de l'Amérique telle qu'on nous la vend ou qu'on essaie de nous la présenter souvent.
Ce qui est très amusant, c'est que comme c'est un dictionnaire, ça suit l'ordre alphabétique. Alors ça fait des rencontres.
C'est la seule chose que j'ai retenue des mathématiques et encore, ouais. Ça ne leur doit rien.
Il y a des télescopages.
Alors oui, il y a des télescopages amusants. Enfin, par exemple, il y a Cell Western.
Ouais.
Bon, donc il y a un petit chapitre sur la Cell Western qui explique tout ce qu'on peut savoir sur la Cell Western. Puis juste après, c'est Simenon Georges.
Ben, oui, mais ça n'est pas si invraisemblable. Tu sais qu'il a écrit une grosse partie de son œuvre aux États-Unis, notamment dans le Sud. C'était qu'il était très friand de la frontière mexicaine pour des raisons que les gens qui connaissent Simenon comprendront aisément. Et donc, il a écrit des romans. J'ai fait une entrée Pierre Benoît avec le lac Salé et, et la dame, pas la dame du Liban, la dame de l'Ouest. Mais j'aurais pu faire une entrée des romans américains de Simenon, notamment ceux qui se passent en Arizona, ceux qui se passent au Nouveau-Mexique. J'aurais pu mettre une photo de Simenon avec une selle western et un beau Stetson sur la tête.
Alors il y a naturellement les entrées qui sont réservées à la guerre de sécession.
Oui,
c'est sûr.
Alors la guerre de sécession, que nous appelons la guerre de sécession. Aux États-Unis, les gens du Nord appellent ça la guerre civile, et dans le Sud, nous l'appelons, ils l'appellent la guerre entre les États.
Tu n'as pas d'ennui parce que là, tu es toujours habillé avec des...
J'ai jamais d'ennui.
Avec le drapeau sud sur l'épaule, même là-bas.
Tu sais que je suis un personnage très calme,
oui, très calme.
Que je n'ai jamais fait de provocation, contrairement à ce que
mais
tu dis,
réponds,
mais que j'affirme tranquillement ce que je suis, que je ne juge personne d'autre, mais que j'aime pas qu'on vienne me marcher sur les pieds. Donc j'ai rarement d'ennui.
Il y en a quelques-uns qui le disent, il y a eu certaines difficultés parce qu'ils n'ont plus toutes les dents pour s'expliquer.
Non, quand j'étais jeune.
Ben voilà, c'est ça.
C'est fini, là, maintenant. Je suis
donc,
un vieux sage.
Il faut savoir que tu portes le drapeau sudiste.
Le drapeau confédéré.
Confédéré.
Oui.
Sur l'épaule.
Oui. Parce que je suis en train d'ailleurs de préparer un livre. Il n'y a pas l'entrée qui va s'appeler Le Wouzou des Noirs dans l'armée confédérée. Qui va être une manière de réexpliquer un peu toutes ces choses-là. Personne ne sait que sur 600 000 combattants sudistes, il y avait 60 000 Noirs. Dans l'armée.
Mais comment ils étaient pour les pousser dans le dos?
Ils n'étaient pas pour les pousser dans le dos, puisqu'ils pouvaient, comme tu le sais, ils pouvaient partir très aisément au moment des combats. Il n'y avait plus personne. Hein. Bien souvent, ils sont restés dans les plantations pour protéger les femmes et les enfants qui restaient. 60 000 Noirs qui ont été soldats, qui ont été espions, qui ont été cuisiniers, qui ont été gradés, petits gradés. Et la grande différence avec les colored troops, les colored soldiers qu'il y avait dans le Nord, c'est qu'au Sud, les Noirs et les Blancs se sont battus au coude à coude. Tandis que dans le Nord, c'était des troupes véritablement ségrégationnistes et avec une forme d'apartheid. Dans le Sud, qui a beaucoup de monuments à la mémoire des Afro-Américains qui se sont battus pour le Sud, beaucoup. Dans le Nord, tu n'as aucun hommage ou quasiment un ou deux pauvres monuments pour les colored people. Les colored soldiers. Voilà. C'est des petites choses comme ça qu'il faut rappeler de temps en temps, parce que plus personne, plus aucun historien sérieux ne nous expliquera que c'est le prétexte de l'abomination esclavagiste dénoncée comme telle par le général Lee lui-même, qui n'avait pas d'esclaves à la différence de Grant ou de l'abominable Sherman.
Alors c'est amusant parce qu'il y a quelqu'un dans le studio qui est venu pour t'entendre, parce que je lui dis que tu parlais ce soir, et comme il vit aux États-Unis et il partage ton amour pour l'Amérique, il était content de te voir. Mais ce qui est encore plus amusant dans ce contexte, c'est que François Plantet, qui est très rare maintenant à cette émission, et je le regrette, envoie un message en disant « Apparemment, l'Amérique de Sanders doit être un autre pays que celui où j'ai habité et qui n'est pas un rêve, mais un cauchemar épouvantable. »
Eh oui, mais ça peut être... Il y a des gens pour qui l'Union soviétique était un paradis.
Oui, mais dans le cas de...
Si tu vas aux États-Unis dans un esprit où tout te débecte, où rien ne te plaît, où tu n'aimes pas manger le poisson-chat, où si tu arrives hérissé...
Chose, je préférerais autre chose que du poisson-chat.
C'est très bon, tu as tort, c'est le catfish, c'est excellent. Mais bon,
tu as une entrée sur le catfish?
Non, ça sera dans le tome 2. Et avec une recette... Mais voilà, il faut y aller ou ne pas y aller.
Mais dans le cas de François, je crois que c'est lié à son humeur actuelle, parce que je l'ai entendu parler des États-Unis avec passion, de la richesse extraordinaire des travaux qu'ils font dans les universités, etc.
Notamment
dans le domaine médical, médical, quand il parle de la Mayo Clinic où il a exercé, tout ça, ça fait partie de. Il tire son chapeau, mais là, je crois qu'il est un peu de mauvaise humeur, je sais pas pourquoi.
Voilà, bon.
Et alors, il a décidé ce soir qu'il n'aimait pas les États-Unis. C'est vrai, on l'aime bien quand même.
Bien sûr, non mais ça.
Pour toi, si on devait te poser la question parfaitement idiote, qui est ma spécialité, qu'est-ce que tu choisirais comme symbole unique, si est-ce que c'est possible?
Comme symbole unique, c'est cette succession, cette avenue, ce boulevard continu devant toutes les maisons. Devant toutes les maisons qui arborent quasiment toutes, et dans les petites villes toutes,
le drapeau.
Ouais. Qu'il soit américain et côtoyant le drapeau confédéré, qu'il soit avec le drapeau de l'État même et le drapeau américain partout. Qui est quelque chose qui est difficilement concevable en France, où quelqu'un qui montrait un drapeau français serait immédiatement taxé d'être le pire des bonhommes. Et puis, qu'on le veuille ou non, cette espèce de religiosité dont on se moque beaucoup, mais qui est infiniment touchante. Ce côté qui leur vient de l'esprit pionnier, ça a été fondé par des gens qui étaient d'une religion dur, un peu sectaire. Je disais tout à l'heure que les pèlerins du Mayflower étaient venus aux États-Unis parce qu'ils trouvaient que Cromwell était un affreux débauché, trop rock'n'roll pour eux.
Donc, un peu mou.
Bon, un peu mou. Ouais. Donc, quand des types comme ça arrivent et commencent à fonder un premier État ou une nation, mais eux-mêmes ont été fuis par d'autres qui ont amélioré un peu les choses.
Ça finit avec Playboy.
Mais c'est ça. Mais Playboy est un épiphénomène. Mais ça n'est pas le fond du. Il faut comprendre qu'il y a un excès de liberté, peut-être aux États-Unis, en ce qui nous regarde. Mais quand on voit l'excès de dictature qui concerne notre pays, la pensée unique, l'interdiction de dire ceci ou cela, on est content que là-bas, il y ait des gens qui aient le droit de dire, par exemple, que l'oignon mérite d'être adoré parce que c'est un dieu qui représente le nombril du monde. Bon, c'est idiot. Bon, mais voilà, nous, on ne peut rien dire à la différence.
Mais enfin, en même temps, la prétendue liberté d'expression, la liberté d'expression n'est pas universelle, parce que je me souviens d'avoir été viré presque manu militari d'un dîner à New York parce que j'avais utilisé le mot nègre.
Oui, mais là, ce n'est pas une interdiction. Ce sont des gens dans un cercle privé qui ont trouvé que tu n'avais pas à dire ce mot-là et qui donc t'ont chassé. Mais ça n'est pas. Tu n'as pas été condamné ou traîné devant les tribunaux pour avoir dit ça.
Non, c'est un cercle privé. Oui.
Et alors, un homme qui, pour toi, symbolise les Américains, c'est John Wayne?
Il y en a beaucoup, non? Oui, c'est peut-être Davy Crockett. Parce que David Crockett,
il était né
dans le Tennessee. En plus, il était d'origine française, puisque son véritable nom,
c'était
Crockettine.
Crockettine.
C'est une famille qui est arrivée dès la fin du XVIIe siècle et qui s'est installée là-bas et qui représente tout le bas goût, le côté un peu le mauvais goût, le côté un peu arrogant, mais en même temps qui va mourir. Alors, il emmène 12 copains là-bas. Il dit, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire? Ils m'ont pas réélu au Congrès. Il leur dit, messieurs, puisque vous ne m'avez pas réélu, je vous envoie en enfer et moi je vais au Texas. Et il meurt.
Alors c'est un joli livre. Il a d'abord c'est du Sander, c'est-à-dire c'est pas un livre mou, c'est pas un livre ennuyeux, c'est pas un livre long, c'est des petits chapitres très courts, bien sûr, des entrées de dictionnaire, avec de jolies idées, de jolies images. Et puis beaucoup de culot quand même, parce que en ce moment écrire un bouquin comme ça, comme je l'ai dit pour commencer,
c'est maintenant qu'il faut l'écrire.
C'est ça. Ouais.
Voilà. Alors tu me demandais Zydeco tout à l'heure, ce que c'est. Alors je vais te le dire parce que c'est intéressant. C'est une forme de musique cajun, c'est-à-dire de Louisiane. Et ça vient d'une chanson qui disait en cajun, les Zydeco sont secs. Ah, Zaideco. Les haricots sont secs. Et par déformation, c'est du Zaideco.
Est-ce que tu as apporté là un peu de musique cajun?
Oui, alors si tu veux la cajun spécialement, ça sera, on va mettre une chanson de Fiddling Frenchy Bird qui s'appelle Big Mamou, Big Maman, qui est la chanson numéro 2.
Numéro 2, oui.
Voilà.
Est-ce que Franck peut nous chercher ça parce qu'on lui avait préparé une pile de disques, mais on a...
C'est la numéro 1 sur celui qui est marqué numéro 2.
Voilà. Le disque numéro 2, la chanson numéro 1. Cette passion pour le country, la country music en France, ça prend bien.
Oui,
parce que tu as créé un journal, tu as créé un mouvement.
J'ai créé un
groupe.
J'ai un journal mensuel qui marche bien.
Et un groupe aussi.
Non. J'ai pas un groupe à
moi. Tu fais partie d'un groupe?
Oui, ce qui marche très bien à l'heure actuelle, c'est la danse country en France. Ouais. Il y a plus de 20 000 danseurs, plus de 150 clubs.
C'est vrai qu'on a plein de
danse. Non, c'est encore autre chose. C'est la line dance. La danse en ligne.
Ça veut dire abruti.
Non, square, square, ça veut dire coincé.
Ah, coincé,
ça veut dire carré.
Ah, carré,
mais la square dance, ça n'a rien à voir avec ça.
Alors, à titre personnel, je voudrais te poser une question,
oui.
Tant pis pour les auditeurs. Est-ce que tu as vu cette série américaine qui s'appelle Band of Brothers?
Bien sûr.
Qui est magnifique.
Ah, ben voilà, oui, d'accord.
Ah, oui,
je l'ai même intégralement, je peux te la prêter.
Si vous êtes comme moi, un ancien adorateur des États-Unis qui a pris un coup de calgon depuis l'élection de la bande de tarés qui ont suivi...
Alors que moi, ça m'a redonné du pain. J'ai repris 10 ans de jeunesse.
Le départ de Reagan, parce que derrière Reagan, c'est-à-dire que là, vraiment, on est en train de...
Ah oui, mais là, tu mets la barre très haut.
Oui, bien sûr. Alors, si vous êtes comme moi, donc l'amoureux des États-Unis qui a pris un coup de calgon et qui a du mal à s'en guérir, il faut regarder cette série américaine quand elle sortira en France. Je pense qu'elle sera diffusée un jour ou l'autre, qui s'appelle Band of Brothers et qui Frères d'armes. Et qui reconstitue les premiers jours, enfin les premiers mois de la libération.
Alors, elle existe en DVD et en VHS.
Et c'est vraiment un chef-d'œuvre magnifique avec des personnages et surtout des témoignages.
Ah, ça c'est intéressant. Ça me fait très plaisir parce qu'il y a un lecteur, un auditeur qui dit, je me rendais pas compte que vous aviez une mentalité de midinette.
C'est
exactement ce que je suis.
C'est
si on n'a pas compris que je suis une midinette, que j'aime les petites choses, les petites gens, les plaisirs simples, tranquilles, faciles, je suis une midinette, bien sûr, parce que je pleure quand quelque chose me fait pleurer, je ris quand quelque chose me fait rire, je n'ai pas le cœur sec du tout. Vive les midinettes.
Ça, c'est l'émotion.
Plus, si vous n'avez jamais pris un coup de poing dans la gueule par une midinette, c'est pour pas rater la
drôle de gueule.
Alors, il y a un peu, il faudrait vous raser un petit peu plus souvent, mademoiselle, quand même. Alors, ça, c'est très drôle. Parce qu'il y a un auditeur qui dit, ce qui est regrettable, c'est qu'à chaque fois qu'on nous parle de l'Amérique, c'est pour en dire du bien.
Ah, ben non, c'est pas le cas, quand même. Cette émission.
Et alors, compliment à M. Sanders, on ne peut pas dire la même chose chez M. SDB. Pour ceux qui ressortent de l'anti-américanisme.
Il y a beaucoup des gens m'ont dit, ah, tu vas aller chez Beketch, alors tu vas en entendre, hein. Je dis, mais non, parce que ce qui nous sépare finalement est dérisoire, parce qu'on se fâchera jamais. Surtout sur des sujets qui
sont quand même assez loin,
que l'on emportera et qui nous emporteront bien avant qu'on ait le temps de se fâcher. Et puis, c'est des gens qui ne savent pas que finalement, sur le fond, on est des midinettes.
Oui, c'est ça.
Mais c'est vrai.
Norman Rockwell, tu as fait quelque chose. Norman Rockwell.
Non, je n'ai pas fait. Mais tu sais, j'ai fait que 600 pages.
547. Il faut un tome 2.
Oui,
ben, parce qu'un auditeur... Ouais. Dit, pensez-vous que l'Amérique de Norman Rockwell est totalement morte, si toutefois elle a jamais existé?
Elle est superbe. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de peintres qui entreront dans le second tome, notamment Whistler, qui est un superbe peintre. Il y aura Remington, il y aura bien sûr Norman Rockwell, il y aura beaucoup de choses comme ça.
Mais c'est vrai que l'Amérique que tu racontes, celle que tu aimes, celle qu'on aime au fond, c'est l'Amérique de Rockwell. Parce que,
bien sûr, mais je suis prêt à inviter qui veut à venir avec moi n'importe quand, et je lui montrerai ces paysages, je leur montrerai cette vie, ces petits bistrots de coin de rue où on s'assoit, où on discute, où on vous mendie pas le café, où on vous l'apporte. Bon, c'est un peu un café pour bonne sœur protestante, hein. Oui. Il n'énerve pas, mais on vous le mendie pas, il y a une espèce de générosité à l'ancienne qui fait du bien au cœur des midinettes.
En tout cas, qu'on l'aime ou qu'on n'aime pas l'Amérique, je crois qu'il faut lire ce bouquin parce que vous verrez le point de vue de quelqu'un qui aime l'Amérique et qui le dit avec sincérité, avec beaucoup de talent. Ça s'appelle donc L'Amérique que j'aime, un dictionnaire sentimental du Nouveau Monde, et c'est paru aux éditions de Paris, qui décidément font du très 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 bon boulot.
Est-ce que je peux rajouter, parce que je vais me faire disputer par deux personnes que j'aime beaucoup, qui sont Jean de Jacquelot et Benoît Mancheron, qu'il y aura une signature de ce livre vendredi de 15h à 19h à la librairie France Livre, qu'on appelle entre nous la librairie du Petit Pont, 6 rue du Petit Pont, tout près de Notre-Dame de Paris.
Et si vous voulez voir une midinette d'un genre un peu spécial, donc vous allez à la librairie du Petit Pont, c'est quel jour, répète ?
C'est vendredi 4 février. De 15h à 19h.
Il y aura un deuxième tome alors.
Il y a un deuxième tome.
Quand vous écrivez tous les deux, il n'y a pas de deuxième tome.
Mais merci, c'est gentil.
Voilà. Alors là, ça fait mal. Hein. Là, ça nous calme d'un coup, hein, Serge.
Pouvez-vous redire le nom de la série américaine dont vous venez de parler ?
C'est Frères d'armes.
Frères d'armes. Et on peut la trouver dans les Fnac, chez Virgin, dans tous les grandes. C'est une série, je crois, il y a 7 ou 8 DVD. Et c'est bien fait, comme quand...
Je veux dire qu'après ça, la télévision française, ils peuvent aller se rhabiller avec des sacs en papier, parce que vraiment, ils n'existent pas. Quand on pense... Enfin, il n'y a même pas de comparaison, quoi. Il faut dire, voilà, c'est tout. Quand vous voyez des séries avec Roger Hanin c'est pathétique, c'est pathétique. Et là, ça, c'est vraiment de la
Et le côté, alors, puisqu'on parle des séries, ce côté qui fait ricaner chez nous, c'est le côté moral. Il y a des situations amorales, mais qui se règlent toujours moralement. Jamais on ne verra une jeune fille en situation difficile. On ne verra jamais dans ces séries américaines cette jeune fille. Une amie un peu débauchée lui dira « tu devrais te faire avorter ouais. ». Mais ça ne sera jamais la fin de l'histoire. C'est exactement le contraire des séries françaises.
Voilà. Les feuilletons, dans les séries américaines, même quand ça se passe à New York, dans le pays de débauche comme chacun sait, quand il y a notamment une série qui est merveilleuse qui s'appelle NYPD, New York Police Department, où on voit les flics qui arrêtent les pires criminels. Bon, ils les traitent traitent les pires criminels, mais le regard de mépris le plus violent qu'a l'inspecteur, Sipovitz, c'est quand il tombe sur un type qui trompe sa femme. Ouais. Alors là, il le regarde, mais vraiment, avec un air de dire c'est pire que s'il avait assassiné la terre entière. Voilà. Je répète le titre de ce beau livre, L'Amérique que j'aime, dictionnaire sentimental du Nouveau Monde, par Alain Sanders, paru aux éditions de Paris. Signature vendredi prochain à 14h.
Le 15h, 19h.
15h à la librairie du Petit Pont. Vous connaissez, monsieur l'abbé, la durée du Pont?
Ah, ben, bien sûr, oui.
Voilà. C'était pour m'assurer que on était bien. C'était bien vous qui étiez là.
C'était bien la librairie Saint-Nicolas, autrefois.
Oui, c'est ça.
Qui s'appelle France Livre, maintenant. Voilà.
Bien. Merci, Alain. Je vais être obligé de te demander de laisser ta place.
Tu nous mets même pas un petit bout de musique cajun, là.
Ah, pardon, oui. Mais on va faire ça pendant la danse.
Voilà. Pendant qu'on change.
La danse des chaises.
C'est musical.
Voilà. Move.
Io le mangio di prima, su ne ripassa. E ha ha, wow, fion. I'm a mad, 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 I got my moon.
Voilà, c'était de la musique cajun. C'est, normalement, on devrait jouer ça en Vendée ou en Normandie, mais apparemment, ils ont perdu leurs instruments de musique. Enfin, ils ont trouvé les instruments de musique là-bas. Et en France, c'est légèrement différent. Mais c'est la même origine. Vous n'êtes pas normand, vous seriez plutôt breton, monsieur.
Oui, enfin, on est tous un peu métissés, vous savez, les Français. Et donc, je suis quand même à 50% normand.
Ah bon, quand même. Comme oui. Le quenon, alors.
Le métissage normand-breton, ça marche bien. Hein.
Oui, ça va, c'est un métissage à peu près tolérable. Ghislain ou Guilin? Parce que Guilin, c'est plein. Ah, bon, parce que je disais Ghislain, mais
non,
là, voilà, la prof m'a repris, l'institutrice m'a repris.
C'est pas une question.
Alors, Guilin Dubois a écrit Irlande si je t'oublie, qui est un très joli livre consacré à
Irlande.
Bravo, il écoute. C'est juste pour voir si le marquis écoutait. Et c'est un peu, alors c'est pas l'Irlande que j'aime, mais c'est un peu c'est pas un dictionnaire sentimental, mais c'est la même démarche. C'est quelqu'un qui vient dire sa passion pour ce pays, du whisky, de la bière, de la nourriture et de la musique. Ça, c'est le premier chapitre. Mm-hmm. Et puis le reste, alors c'est un bouquin à la fois qui présente l'histoire de l'Irlande, oui. d'où elle vient, et puis l'actualité de l'Irlande, ce qu'elle est devenue, comment y était, comment y est devenue.
Tout à fait. Hein? Ça part de l'arrivée de l'homme à ce qu'on attend tous, le départ des Anglais.
En fait. D'accord.
Mais ça n'a rien à voir, parce que...
Ça n'a rien à voir, puisque les premiers Irlandais viennent d'Écosse, quelque part en moins 9000. Mais c'est vrai que c'est hanté sur l'actualité, puisque quelque part, c'est la dernière colonie d'Europe. En tout cas occidental.
Alors il faut dire que Guilin Dubois est belge.
Oui.
Animateur de Chrétienté Solidarité Belgique. Ouais. Et que il a donc beaucoup de liens avec nous, puisque nous on n'est pas belge, mais on est de Chrétienté Solidarité. Et que cette passion pour l'Irlande, elle s'explique aussi par une proximité philosophique et religieuse.
Tout à fait.
C'est l'Irlande catholique.
J'ai commencé en fait par écrire sur le Liban. Puisque j'y suis allé la première fois en 85, et puis je vais y aller 5 fois de suite, 5 années de suite, puis 2 fois en ex-Yougoslavie en 91 et 94, dans la même optique d'ailleurs que Bernard Anthony avec Chrétienté et Solidarité, c'est-à-dire à la fois pour témoigner de l'aide, de la solidarité philosophique, mais aussi pour revenir de là-bas avec des leçons pour ici. Et je n'ai pas perdu de vue l'Irlande. À l'époque où j'étais gamin, on en parlait déjà. Dans les années 70, c'était la grande période des Bloody Sunday et autres grèves de la faim des combattants de l'IRA. Et donc, ces flashs, je ne les ai jamais perdus. Comme je n'ai d'ailleurs pas perdu les flashs des Américains partant du Vietnam. Tout ça est presque concomitant. C'était 75. Et donc, j'ai laissé de côté, j'allais dire, par l'actualité qui m'accompagnait dans ma croissance personnelle, puisque la première fois que je vais au Liban, j'ai 19 ans. Et ça m'est revenu avec, heureusement, le calme de l'actualité, puisque, hélas, le Liban, depuis 10 ans maintenant, est sous le joug des Syriens avec la bénédiction des États-Unis et la lâcheté de l'Europe. Que la guerre d'ex-Yougoslavie, ben finalement, on n'en finit pas de mourir, mais dans le désintérêt des médias, il faut bien le reconnaître. La guerre d'ex-Yougoslavie n'intéressait les médias presque dans son volet croate et bosniaque, mais curieusement, la résistance de la, de ce qui est devenu la minorité serbe du Kosovo n'intéresse personne. D'ailleurs, tout le monde s'est mis à ce moment-là sur le dos des Serbes, sans rien comprendre.
Moi, quand même.
Pardon?
Moi, j'ai toujours été. Oui, il y a quelques, un beau positif.
Il y a quelques esprits éclairés, effectivement. Mais en tout cas, ce n'est plus le matraquage qu'on a connu à l'occasion des opérations en Bosnie ou en Croatie. Et je suis donc revenu à une de mes premières amours, l'Irlande, que j'ai redécouvert de manière touristique en 2001 et encore en juillet de cette année, mais avec la ferme intention, parce que je crois qu'on te parle bien de quelque chose, et en ayant eu Alain Sanders tout à l'heure, il ne va pas me dire le contraire, c'est qu'on ne parle bien que de ce qu'on connaît, j'allais dire de manière charnelle. Et c'est vrai que se retrouver paumé dans une rue au milieu des Landes, en Irlande, dans la brume, et qu'on entend quelqu'un qui crache au bord de la route et qu'on voit quelques moutons qu'on distingue dans la brume devant ses phares, et que cette personne vous accueille, vous marchez au rythme de ces moutons jusqu'au carrefour tout proche, ben, ce sont des choses qui permettent de découvrir effectivement aussi un pays. Et l'Irlande, c'est une histoire dramatique. Dramatique, puisqu'ils sont, l'homme est arrivé il y a 9000 ans avant Jésus-Christ et qu'on s'y bat presque toujours pour une partie de l'île, en tout cas pour sa liberté. Et donc, c'est un peuple qui a souffert, mais contrairement à d'autres peuples qui souffrent dans l'histoire, c'est un peuple qui a gardé sa joie et un accueil indestructible de tout qui vient, et surtout si l'on parle français, parce que à lire le livre, vous verrez que la France, que ce soit la France des rois ou celle de l'après-juste révolution ou de la France de Napoléon, la France a essayé à plusieurs reprises, bien évidemment, les amis, les ennemis de mes ennemis sont mes amis, donc en aidant l'Irlande, on pensait aussi à mettre un pied au cul aux Anglais. C'est évident qu'on soit Louis XIV ou Napoléon, mais il y a donc une relation tout à fait particulière entre les francophones et les Irlandais qui n'ont pas oublié qu'à 3 ou 4 reprises, des Français, en tout cas des gens de langue française, avaient débarqué chez eux pour les aider.
Il n'y a pas que des Français qui ont débarqué chez eux, parce qu'il y a un
des Espagnols aussi.
Il y a un chapitre qui est très très étonnant,
chapitre
12, qui est intitulé « Les Arabes débarquent à Baltimore ». Et alors, c'est formidable, c'est l'histoire d'un raïs, enfin d'un pirate turc, ou turc. Il s'appelait à l'origine Jan Jensen, il venait de Harlem. Et il s'est converti à l'islam, il se fait appeler, on n'en sort pas, Murat Raïs, ce qui veut dire le capitaine Murat. Et en 1617, à la tête d'une flotte de 800 hommes arabes et turcs, il débarque près de Waterford, dans le sud-est de l'île, où il enlève plusieurs personnes.
Oui, ils sont plus d'une centaine de personnes. Et alors il les emmène comme esclaves à Alger.
Ouais.
Et ça va être un tollé tellement important que les Anglais, l'occupant anglais à l'époque, a peur d'une révolte de la population locale qui réclame le retour des enlevés, des otages. Et le roi d'Angleterre va envoyer à Alger un émissaire qui sera chargé de racheter un par un les esclaves. Et d'esclaves, il n'en trouvera plus qu'une qui acceptera d'ailleurs de repartir bien évidemment avec lui, mais qui par contre refusera de retourner à Baltimore, terrorisée par ce qu'elle a enduré et du souvenir d'avoir été enlevée un soir de juin dans son pays. Donc elle acceptera de repartir avec l'anglais à la condition de vivre en Angleterre où elle mourra d'ailleurs.
Et alors quand on lit ce livre, on voit à quel point on a oublié, mais le véritable martyr des Irlandais, qui est un martyr qui va durer qui dure le long des siècles. Cromwell va être.
Cromwell, ce sont les brigades infernales de la Révolution française, c'est la guerre de Vendée.
Tu dis c'est la Vendée irlandaise.
Il débarque à Drogheboss, c'est un port à 40 km au nord de Dublin, il massacre 3000 habitants. Il descend à Westfort, c'est à 80 km au sud de Dublin, tout ça se passe sur la côte est de l'Irlande, il massacre tous les habitants. Il va au centre de l'Irlande, à Rock of Cashel, c'est d'ailleurs la couverture du livre, c'est une superbe abbaye sur un piton rocheux tout près de Tipperary. Eh bien, il va massacrer moines, villageois, etc. Il est le créateur, en quelque sorte, d'un des premiers camps de concentration répertoriés de l'histoire. Ce sur une île où il va au large ouest de l'Irlande rassembler des religieux, des religieuses, des prêtres et les massacrer et par la mort et la faim.
Les massacres vont être tels que l'Irlande va sombrer dans la famine parce que tout y a à plus fait. De bras après pratiquement.
Tout à fait. En 1845, la population irlandaise qui est essentiellement agricole ne vivra que de la pomme de terre petit à petit. Ouais. Pourquoi ? Parce que ces paysans évidemment ne cultivent pas que la pomme de terre, mais sont obligés de payer des fermages à leurs propriétaires anglais, qui non seulement perçoivent ces fameux fermages, mais qui en plus achètent exclusivement pour l'exportation en Angleterre le produit des récoltes et donc les Irlandais, les autochtones vont avoir essentiellement la pomme de terre comme nourriture. Et malheureusement en 1843 la pomme de terre va être frappée de plein fouet par un champignon qui s'appelle le mildiou. Et les Irlandais, parce que les Anglais ne vont pas réagir, vont mourir petit à petit. On parle de entre 1 million et 1 million et demi de morts.
Alors, l'impression qu'on tire de la lecture de ton livre, c'est le fait que l'homme est l'homme est le produit d'une expérience. Et les Irlandais, l'espèce d'entêtement des Irlandais, le refus de céder jamais, cette espèce d'esprit de résistance, de roc qu'ils ont opposé dans toute leur histoire, c'est fondé là-dessus, c'est fondé sur le fait qu'on a essayé par tous les moyens de les détruire, de les faire mourir, de les affamer, de les déporter, de les transformer en esclaves, et ils ont toujours dit non.
Bien sûr.
Et ça explique l'inexplicable, c'est-à-dire par exemple, parce que en termes clairs, c'est absolument inexplicable, la guerre contre l'Angleterre. Deux peuples européens modernes qui sont en guerre comme ça, parce que c'est une guerre, c'est inexplicable et injustifiable, sauf si on comprend ça.
Oui.
C'est que c'est le fruit d'une résistance de fer, des deux côtés d'ailleurs, parce que les Anglais sont aussi un peuple d'une résistance implacable.
Mais je crois que d'autres occupants se seraient découragés aussi.
Alors, est-ce que tu peux m'expliquer ça ? C'est le fait que ces pays qui sont des pays, enfin ces êtres, ces hommes qui sont durs, résistants, capables de violence, capables de se sacrifier, capables de tuer, entre eux, quand ils sont soumis à l'invasion du tiers-monde, comme est soumis l'Angleterre, et comme est en passe d'être soumise l'Irlande, eh bien, ils réagissent pas.
Mais c'est pas tout à fait vrai, parce que justement, dans l'actualité politique la plus récente de l'Irlande, je n'ai plus de mémoire la date, mais elle est dans le livre. Ils ont fait un référendum, je dirais, il y a 2-3 ans. Un référendum constitutionnel qui a été accepté par, je crois, plus de 60% de la population. Et ce référendum est intéressant et il devrait donner des idées, justement, à nos gouvernants. C'était un référendum qui portait sur quoi ? Le choix entre l'état actuel de la législation ou de la modifier. Et dans quel sens ? La législation concernant la nationalité. L'Irlande, comme tous les pays de tradition européenne, a son droit, bien qu'elle n'a pas connu les Romains, puisqu'elle n'a pas été envahie par les Romains, avait quand même un droit, j'allais dire romain entre guillemets, puisque la nationalité, c'était le droit du sang. Mm-hmm. Il fallait avoir un des parents irlandais. Et dans les années 80, alors qu'elle ne connaissait pas de problème d'immigration, parce que l'immigration extra-européenne en Irlande date d'une dizaine d'années, eh bien, elle a cru pouvoir renoncer à ce droit et, j'allais dire, faire comme tout le monde, adopter le droit du sol. C'est-à-dire que celui qui naît en Irlande peut, avec certaines conditions d'une certaine ancienneté sur le sol, devenir irlandais, sans parents irlandais. Et puis, il y a donc 2-3 ans, se rendant compte du flot d'immigrés qui se reproduisaient sur le sol et qui devenaient, par la nouvelle loi, irlandais, le gouvernement irlandais, qui n'est pas un gouvernement d'extrême droite, c'est un gouvernement, j'allais dire, d'union nationale entre ce qu'on dirait les socialistes et la tendance libérale qui gouverne actuellement la France, eh bien, ils ont proposé à leur peuple, très courageusement ou très naïvement, je ne sais pas, un référendum pour voir si le peuple irlandais était d'accord de revenir au droit du sang. Eh bien, le peuple a décidé, et maintenant l'Irlande a renoué avec sa tradition, et j'allais dire la tradition séculaire de l'Europe continentale, elle l'a renouée avec l'acquisition de la nationalité par le sang.
Voilà. Donc il y a encore des soubresauts. Elle a demandé aussi, tout en signant le traité de Maastricht, elle a demandé une dérogation et un engagement des puissances européennes pour qu'on ne l'ennuie jamais sur sa législation sur le divorce. Le divorce est accepté, mais pas comme chez nous. Mais alors là où c'est encore plus fondamental, même quand l'ancienne Premier ministre, pas celui actuel mais le précédent, c'était une travailliste, qui était une partisane donc de l'abrogation des lois réprimant l'avortement, eh bien elle n'a pas pu le faire. Elle n'a pas pu le faire et l'Irlande, en signant le traité de Maastricht, a une clause dérogatoire, exactement comme les Anglais avec l'euro, pour que la législation européenne ne joue pas sur leur terrain. Et que plus encore en plus, on ne revienne pas là-dessus, sauf si les Irlandais décidaient par eux-mêmes d'y revenir. Donc il y a encore des résistances, même maintenant. C'est quand même des sujets révélateurs.
Alors, j'ai dit que ton livre n'était pas, comme celui de Sanders, un livre à entrée multiple, c'est pas un dictionnaire, mais il n'empêche que c'est quand même un livre avec des chapitres très courts, oui, sur des sujets très pointus, par exemple, l'attitude de l'Irlande dans la Deuxième Guerre mondiale, qui est un sujet aussi...
Qui aurait mérité peut-être un livre à lui tout seul.
Un livre, oui. Absolument. Et puis, notamment, alors la suite, il y a un chapitre sur l'Irlande du Nord.
Oui.
Donc je recommande la lecture parce que c'est un texte que j'ai trouvé très très fort, notamment autour de l'histoire de Bloody Sunday, l'histoire de Bobby Sand. Mm-hmm. Alors on peut penser ce qu'on veut de Bobby Sand,
mais la question n'était pas là d'ailleurs.
Le fond, enfin, ce qui est plus important quand même, c'est la force morale extraordinaire de cet homme, ouais, qui, quelles que soient ses motivations, je le répète, on peut être d'accord ou pas d'accord politiquement avec lui, dire c'est un gauchiste ou je ne sais quel, ou un marxiste ou je ne sais quoi. Bon, moi, je comme Pascal, je crois aux martyrs qui meurent pour témoigner.
Tout à fait.
Et bon, c'est un personnage qui mérite le respect, et je trouve que c'est très bien d'avoir rendu cet hommage dans ce texte. Il y a aussi les chants fameux.
Oui,
chant irlandais fameux, traduit. Et c'est intéressant de, par exemple, le fameux Bloody Sunday, qui est un très beau chant.
Oui, de YouTube, oui.
Je crois même qu'il y a, où est-ce que j'ai rêvé, j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose autour de, non pas de la gastronomie, mais de la...
L'histoire du whisky?
Oui, l'histoire du whisky.
Ah ben oui, parce que, effectivement, si on parle dans des cercles de spécialistes, entre guillemets, du whisky, on ne vous offrira, croyant vous faire plaisir, et d'ailleurs on nous fait plaisir en nous l'offrant, que du whisky écossais.
Ouais.
Et cette histoire du whisky...
Du scotch, d'ailleurs.
Oui, et tout à fait. Oui. Ben oui. Alors que le premier whisky du monde est irlandais. Ce sont des moines concomitamment à Saint-Patrick. Oh. Nous sommes au 4e siècle, qui vont sillonner toute la Méditerranée, arriver en Égypte, où ils vont découvrir l'alambic qu'on utilise là-bas pour faire des parfums. Et en bon irlandais dévoyé qu'ils sont,
ils
prennent l'alambic, ils laissent les parfums, oui, ils vont rentrer chez eux et faire le premier whisky. Mais quand les Anglais vont arriver au 12e siècle, ils vont apprécier le whisky irlandais, bien sûr, mais ils vont interdire aux Irlandais le droit de le produire même à des fins personnelles. Les Écossais qui, à l'époque...
Ils sont un peu énervants, les Anglais, quand même. Hein.
Qui, à l'époque, travaillent avec les Anglais, vont eux-mêmes piquer la recette et vont se dire, bah, puisqu'on l'interdit aux Irlandais, pourquoi nous n'en ferions-nous pas? Et c'est comme ça qu'ils vont faire le whisky qui, lui, pourra être vendu dans le monde entier. Pendant des siècles, on n'a donc connu que le whisky écossais et non pas le vrai whisky. D'ailleurs, ça ne se dit pas whisky, ça se dit whiskey. C'est E-Y.
J'avais un ami dessinateur qui s'appelait Bayard et qui a tenté vainement, d'ailleurs, d'en finir avec le whisky anglais, mais lui, la solution qu'il avait trouvée, il n'a pas gagné. Il a fini par en mourir, mais il était en bonne voie pour faire disparaître le whisky anglais.
À lui tout seul.
À lui tout seul de la surface de la Terre. Et il disait toujours, j'aime beaucoup l'Angleterre, je n'ai qu'un reproche à lui faire, c'est d'être au-dessus du niveau de la mer. Alors voilà, c'est Irlande si je t'oublie, c'est un joli livre. Vous savez, moi j'aime beaucoup les Belges parce qu'ils sont les derniers vrais francophones. C'est-à-dire qu'on pourrait nous donner des leçons d'élégance parlée, surtout à moi d'ailleurs, et aussi d'écriture. Et ce livre est remarquablement écrit, c'est un joli livre, une jolie lettre d'amour à l'Irlande. Et donc je recommande la lecture, il est paru aux éditions Dricot.
À Liège. Mais vous pouvez le commander sur Internet. Il est en vente en France par DPF, oui. Donc Diffusion de la Pensée Française, voilà. Chiré. Et chez l'éditeur, c'est 12.
Tu n'as pas de signature en vue.
Ici, non.
Il faudra qu'on en
mais ça pourrait ça se même, faire,
parce que, oui. Parce que ça en vaut la peine. Et on n'a pas de musique irlandaise à faire entendre, mais enfin...
J'ai deux petits messages tout courts. L'Irlande est un pays de rêve sur une terre d'amour.
Ah, c'est une jolie citation.
Et puis, il y a un cimetière à côté de Cork qui comprend des tombes de soldats français venus défendre les Irlandais contre les Anglais. C'est un pays fantastique. Les gens y sont accueillants, honnêtes et ont des convictions solides.
Elles sont drôlement bien, nos bidinettes, ce soir.
Bidinettes musclées. Qui en ont. Et ce sont les leurs.
Et voilà.
Contrairement à...
Oui, certaines bidinettes.
Bien. Merci. Guylain Dubois. Ce Guylain me... je veux bien Guylain Dubois.
C'est
Irlande, si je t'oublie. Édition...
Dricot.
Puis on se revoit à Bruxelles prochainement, parce que moi, je suis devenu un amoureux de Bruxelles, maintenant.
Vous avez la frite.
Ah oui, non, mais il n'y a pas que ça. C'est bien. Santé. Immédiatement, une fois viré de l'endroit où tu es, c'était dit une chose.
Merci, au revoir, à bientôt.
Merci, Guylain, à bientôt. Monsieur l'abbé, bonsoir. J'ai un message pour vous. Je suggère, nous dit un auditeur probablement bien intentionné, d'installer un lit à Radio Courtoisie pour que l'abbé de Tannouarn puisse y coucher.
Mais il l'a déjà.
De manière à être sur place pour les émissions. Il est de beaucoup de toutes les émissions en ce moment.
Monsieur l'abbé vient de se lever à l'instant.
C'est par accès, hein, je rassure cet auditeur.
Oui, ça ne durera pas.
Ça ne durera que jusqu'au 6 février prochain.
Et puis en plus, je trouve le reproche qui vous est fait un petit peu déplacé, parce que les mêmes qui reprochent aux prêtres de se tenir trop à l'écart de la vie sociale et de la vie publique, quand les prêtres se mêlent de la vie publique et de la vie sociale, ils leur reprochent de le faire.
Alors, écoutez, je trouve qu'on a un merveilleux médium qui est un médium libre où on peut parler, et je crois qu'en Europe c'est quelque chose d'à peu près unique. J'habite pas très loin. J'avoue que je suis très content d'y venir.
On est content de vous avoir.
Voilà.
Au moins, pendant ce temps-là, c'est pas Monseigneur Gaillot.
Déjà.
Il parle pas souvent sur Radio Courtoisie, d'ailleurs, faut bien dire. Il parle plutôt sur la télévision, où il s'est fait traiter, mais vraiment d'une façon absolument abominable, par le ravissant petit monsieur Faugiel.
Et qu'allait-il faire dans cette...
traite-t-il pas de façon abominable?
Oui, mais... Si, monsieur, imaginez qu'un rabbin accepte de participer à une émission de télé de droite, s'il y avait une télé de droite, hein, et qu'il soit traité de cette façon. Vous ne croyez pas que ça provoquerait un cataclysme mondial? Eh bien, non, là, on trouve... Moi, j'ai aucune sympathie pour Gaillot, vraiment. Mais la façon dont cette espèce de petite frappe a traité un évêque français, catholique, aussi peu catholique qu'il soit...
Frappe, vous êtes généreux.
Enfin, il y a des émissions de télé qui sont de véritables cirques.
Oui, il ne faut pas y aller.
Enfin, c'est les jeux du cirque d'aujourd'hui.
C'est le petit défaut de Gaillot, c'est qu'il aime bien la télévision.
De gladiateurs ou de chair à pâté.
Il y avait Jabba de Hutte aussi, pour les amateurs de cinéma, de science-fiction. Jabba de Hutte, c'est Carlier, vous savez. Vous l'appelez
Jabba le Hutte.
Il ressemble étonnamment au personnage immonde, espèce d'énorme crapaud de la guerre des étoiles, Jabba de Hutte. Voilà, c'est lui en fait. C'est lui qui jouait le rôle, je pense. Bien, assez de méchanceté. Donc, revenons alors à notre sujet qui est le colloque. C'est ça, le
congrès.
Le congrès. Il n'y a rien à faire, ça ne voudra pas rentrer. Enfin, il est temps qu'il arrive, parce que le congrès qui aura lieu.
Un colloque, on se parle à l'oreille, un congrès.
On parle en public. Congrès qui aura lieu dimanche prochain et qui est consacré à la laïcité. Alors, ma première question peut vous paraître un peu tordue, mais c'est vrai que ça me travaille, cette histoire. On a reproché récemment, là, après la grande manifestation pour la vie qui a réuni des milliers de jeunes, on a reproché à l'Église en général d'avoir été très discrète. Que ce soit l'Église officielle de Lulu ou l'Église moins officielle, on n'a pas eu l'impression qu'il y avait une grosse participation. Et on a l'impression aussi que là, dans cette initiative qui a été prise de créer de faire un congrès autour de l'histoire de la laïcité, de 100 ans de laïcité, qu'il y a un petit peu de réticence. Il n'y a pas beaucoup d'enthousiasme de la part de l'Église. Et puis surtout, il y a une hostilité alors marquée de la part de l'Église conciliaire, qui, elle, a complètement adhéré au principe de laïcité, alors que quand même, il y a 100 ans, elle manifestait un peu moins d'enthousiasme.
Voilà, je crois qu'il faut quand même distinguer, si vous voulez, pour ce qui est de l'avortement, en tout cas, que je sache, dans toutes les églises et chapelles traditionnalistes, on a fait de la publicité pour cette manifestation, la publicité que cette manifestation mérite, parce que ben, l'avortement, c'est un thème tragique, c'est vraiment le signe de la culture de mort. Et il est absolument nécessaire qu'un chrétien, et donc a fortiori un prêtre, soit en première ligne. Bon, s'il n'y avait pas beaucoup de prêtres à la manifestation, ben c'est peut-être parce que justement les prêtres ont un peu tendance à rester dans leur sacristie quand ils viennent soit derrière un micro, soit sur un trottoir. Il y a encore des gens pour trouver que ça fait des ordres, dans l'autre sens, si vous voulez. Vous dites par ailleurs que c'est vrai sur la laïcité, alors là, c'était le silence absolu de l'Église officielle. Pourquoi ? Parce que, eh bien, je crois simplement, les évêques sont pris dans ce dilemme, plus d'identité religieuse, mais alors cela profitera surtout à l'islam et remettra en cause les privilèges de l'Église, en particulier, enfin privilèges, c'est triste de parler de privilèges, mais en particulier la disposition de toutes ces églises de village que beaucoup lorgnent aujourd'hui. Dans son dernier livre, M. Sarkozy dit « Les églises sont des maisons qui ont été faites pour le peuple, et donc il est normal qu'elles reviennent au peuple. » Lorsqu'il y a deux ou trois personnes par mois qui s'y rendent, eh bien, il faut que cette chose change.
C'est exactement, d'ailleurs, ce qu'avait dit l'adjoint au maire écolo de Paris, enfin l'adjoint écolo au maire de Paris, au moment où il y a eu l'opération tentative d'occupation Absolument. De Saint-Nicolas, où il avait dit, quand on aura vidé les squatters de Saint-Nicolas, c'est-à-dire les prêtres de la fraternité, on remplacera Saint-Nicolas par une maison du peuple.
On en fera une maison du peuple.
Donc Sarkozy tient exactement les propos des trotsco-écolos.
C'est très significatif de la culture catophobe qui prévaut depuis un siècle. Et là, je dirais, ce rapprochement, quand même surprenant, hein, faut le dire, entre les Verts et Sarkozy sur un point de détail...
Bon.
Oui, bon. Est quand même caractéristique, je dirais, de la persécution culturelle que subissent les chrétiens en général et les catholiques en particulier dans ce pays, et en particulier depuis les lois dites de séparation de l'Église et de l'État.
Mais ça, c'est la situation présente, mais l'Église, pendant des années, a quand même manifesté... une certaine hostilité à la laïcisation systématique du pays. Puis là, maintenant, ça semble non seulement s'être arrêté, mais s'être amplifié.
L'Église a accepté la privatisation de la foi, finalement. La foi devient une opinion. Hein, et toute foi qui n'est pas capable de se considérer elle-même comme une opinion, la foi, c'est un absolu. Et, ou alors, on l'a pas. Bon. Mais si, aujourd'hui, on vous dit... si vous dites, votre foi, ma foi est un absolu, vous vous faites considérer comme une espèce de... Oui, d'intégriste, d'excessif, d'abusif.
Il y a un véritable etc. interdit. Il y a une catophobie, mais une catophobie de la haine. C'est-à-dire qu'on sent que...
Alors, on se résout à dire, mais à la fois, oui, c'est mon opinion et je la partage, et puis ça sort pas de ma conscience.
Il faut même pas en parler. Il faut même pas. Alors,
c'est là où finalement l'acceptation de la laïcité agressive, qui est la laïcité à la française, est une manière, enfin, d'accepter aussi la privatisation de la foi et la transformation progressive de la foi en une opinion, c'est-à-dire la disparition concrètement de la foi religieuse.
La réunion qui va avoir lieu, ce congrès, quel va être son programme et quel est son objectif ?
Alors, le programme est riche. L'objectif, donc je ne vais pas le détailler, vous l'avez sur Internet, en tout cas très facilement. L'objectif, il est de donner aux catholiques une voix dans le débat sur la laïcité. Parce que si je crois que à partir du moment où on a constaté que nos évêques ne nous représentaient pas, que nos évêques avaient emboîté le pas au chantre de la laïcité, et à tous les turiféraires de la colonne du temple, vous savez, à la Chirac, si les évêques ont emboîté le pas aux turiféraires de la colonne du temple, et vous voyez de quel temple il peut s'agir, nous, je crois que nous devons expliquer qu'une prépondérance sociale des valeurs chrétiennes dans ce pays est nécessaire pour que la France soit encore la France. Et ça concerne non seulement les catholiques pratiquants, mais je dirais tous les Français de bonne volonté qui veulent que la France continue à être la France. Et je profite de votre micro, Serge, pour lancer ici un appel à nos auditeurs et leur dire surtout ne croyez pas que vous êtes exclus de cette fête de la France parce que vous n'êtes pas pratiquant et que vous n'avez pas votre tampon de baptême ou de...
C'est une question de culture aussi.
Nous sommes Français et en tant que Français, nous sommes structurellement chrétiens. C'est le mode d'emploi. On accueille toutes les cultures, mais la culture qui est la France et que toutes les autres cultures doivent reconnaître comme prépondérante, c'est la culture chrétienne.
Alors je vais donner une minute à Christophe Mailleux pour nous donner les indications pratiques.
Alors je donne donc rendez-vous à tous les catholiques et tous les gens pour qui cette culture chrétienne est importante dimanche prochain à partir de 10h du matin, ceci jusqu'à 18h au Palais de la Mutualité. Il y aura de nombreux écrivains, nous arrivons à quasiment une cinquantaine d'écrivains, il y aura de nombreux stands, donc le Palais de la Mutualité 22 rue Saint-Victor pour les gens qui viennent de province, et il y en aura dans le 5e arrondissement à Paris. Voilà.
Donc, ouais, métro Maubert, Mutualité.
Nous y serons. Eh bien, nous y serons absolument avec le stand du Libre Journal. Et je vous remercie.
Avec joie. Oui, on vous y accueille avec joie. Et je crois qu'on pourra vous y entendre aussi, Serge.
Peut-être, oui, que j'irai jusqu'à prononcer quelques mots.
Je dirai à quelle heure que je...
Victoria, vous avez des annonces?
Oui. Alors, dans le cadre des conférences du Roseau d'Or, Georges Lafly parlera du livre de Gabriel Veraldi, Le Dernier Pape, le jeudi 3 février. De 20h à 21h, au parloir du Colombier, 9 rue du Vieux Colombier, Paris 6e, métro 4 rue Saint-Sulpice, entrée libre. Vendredi prochain, je rappelle, 4 février, de 15h à 19h, Alain Sanders dédicacera l'Amérique que j'aime. Samedi prochain, 5 février, de 15h à 18h30, le général Pierre-Marie Allois dédicacera l'heure fatale de l'Occident à la librairie France Livre, 6 rue du Petit Pont, Paris 5e. Je rappelle encore, pour le 60e anniversaire de la mort de Robert Brasillach, messe en souvenir de Robert Brasillach et de Maurice Bardèche, le samedi 5 février, à 9h30, en l'église Saint-Séverin, suivi du passage au cimetière de Saint-Germain-de-Charonne pour y déposer des roses rouges. 15h30, rencontre avec l'association des amis de Robert Brasillach. Table ronde, après, animée par 3 avocats, maître Wagner, Delcroix et Bardèche, sur le procès de Robert Brasillach. Entrée, 5€. Espace du Bail, 18 passage du Bail, Paris 10e. Et puis le soir, il y a un dîner à 20h au restaurant Le Saunier. Si vous voulez réserver, 01 39 51 08 47. Dimanche 6 février.
Ce sera la dernière annonce.
Omnes Fratres vous invite à la découverte de la Bible. Madame Maï vous montrera les chemins des différents livres, enfin pour sans perdre ni se décourager et découvrir la voie de Dieu. 17h, question d'actualité. Libre participation aux frais. La mer agitée, fête mardi gras avec le chœur Montjoie Saint-Denis, le mardi 8 février à partir de 20h30, 28€ tout compris.
Ça va être encore quelque chose, tiens. Voilà. Merci Victoria. Bonne semaine, bonne quinzaine même, parce que je crois que je ne suis pas là, je suis même à peu près certain de prêter la semaine prochaine. Que Dieu nous garde.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS, et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous venez d'entendre le Libre Journal de Serge de Bekech avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 3,
2 février de 18 à 21h, en différé jeudi 3, dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal a été réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative afin de sauvegarder...